parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence. À vos téléphones, les premiers arrivés, les premiers servis au 01 53 48 3000. On va dire tout d'abord bonjour à, bonsoir plutôt, à Solal qui réalise cette émission qui vous répond au standard. Bonsoir Solal.
Bonsoir Vanessa, tu vas bien?
Ben écoute, tout va bien et toi tu as l'air d'aller bien aussi, t'as une jolie casquette.
Merci.
C'est pour ton, c'est ton anniversaire?
Non, c'est pas mon anniversaire, mais c'est la paye.
Ah, ben voilà, ben écoute, elle est bien investie en tout cas la paye.
Ça fait plaisir, merci. Bon, je vous attends au standard en tout cas.
Voilà, il vous attend, Solal, au 01 53 48 3000, chers amis. Voilà, on y va, dans la joie et la bonne humeur, toujours sur Beurre FM. Mais avant de vous donner la parole, pour cette fin de semaine, puisque nous sommes vendredi, le Jumu'a, c'est aujourd'hui, et demain, c'est le week-end. Quand je dis demain, c'est tout à l'heure, hein, d'ici quelques petites heures. Donc on appelle ce soir, et on vient, on intervient. Il y a des choses, hier soir, c'est vrai que on avait envie de pousser, et d'aller au plus loin possible pour pouvoir aborder davantage le sujet d'hier qui était néanmoins très important. Là en ce moment on parle beaucoup de cette violence conjugale et beaucoup de souffrance, et hier on parlait des féminicides, on disait chaque jour etc. avec son lot. Mais écoutez, on n'était pas très loin de la vérité, puisque aujourd'hui encore une femme morte sous les coups de son mari, à coups de couteau. Enfin bref, c'est l'horreur, quoi. Vraiment l'horreur. Ben, on va aborder ce sujet si vous le voulez, mais sinon vous pouvez parler d'autre chose. Vous ne serez jamais hors sujet, vous le savez. D'accord ? Alors tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. L'Aïdjiboukoum, Chfin Chalin, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà. Oui, alors hier, on a parlé, je ne sais plus, je crois qu'on a parlé hier de toujours de la violence, etc. Enfin, voilà. Terrible, hein, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, encore, un homme qui a tué sa femme. Ah oui. Donc c'est vraiment horrible, hein, ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment affreux. Donc c'était dans les Hauts-de-Seine, c'est une femme de 42 ans qui a été tuée au couteau, hein, par son conjoint, voilà, encore une fois. Et puis il y a cette petite fille. Voilà, j'ai pas envie de vous faire dans la morbidité, dans les faits divers, mais bon, il faut en parler, hein, si vous voulez que je vous dise. Et puis leur rendre hommage, et puis essayer de trouver, peut-être pas les solutions, parce que l'être humain, il est tel qu'il est, et c'est compliqué, hein, de raisonner quelqu'un qui devient fou, soudainement, qui n'accepte pas, par exemple... Une séparation, parce que c'est souvent le cas, hein, voyez. Alors moi c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui de ça, et je voulais dire, la question elle se pose, que se passe-t-il dans la tête de ces hommes qui préfèrent tuer leur compagne plutôt qu'elle les quitte? Et d'ailleurs, selon une étude, la séparation est l'élément déclencheur dans les deux tiers, écoutez bien, dans les deux tiers de féminicides. C'est la séparation qui est l'élément déclencheur. Voilà, donc séparation et violence conjugale ont souvent partie liée, les violences physiques et psychologiques augmentent lors de la séparation et peuvent se poursuivre au-delà même. Hein. Alors, les femmes, c'est-à-dire après la séparation, les femmes en sont victimes beaucoup plus que les hommes et en subissent les conséquences dévastatrices et durables, malheureusement. Voilà, ces hommes qui ne supportent pas la séparation. Alors, il y a plus de femmes, les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein, parce que voilà, on n'invente rien. C'est souvent les femmes qui sont victimes dans ce genre de choses, en tous les cas, qui sont assassinés, hein, tués. Et ces hommes qui ne supportent pas. Donc, il y a cette habitude, cet égo, tu m'appartiens, t'es ma chose. Vous voyez, c'est peut-être ancestral, finalement. L'homme a toujours pensé dans ses gènes, hein, ses génétiques, et ça se transmet, apparemment, et que inconsciemment, sa femme, c'est sa chose, c'est son objet, lui appartient. À partir du moment où elle part, eh ben, c'est comme si on le dépossédait de son bien. Et là, il devient fou de rage et jusqu'à tuer. Vous voyez? Ça va jusque-là. 01 53 48 3000, on accueille Gérard, on a Fatima, tiens, de Stein. Heureusement que j'ai Fatima, hein. Oh là 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 là, ma Fatima. Alors les autres, réveillez-vous, hein, c'est week-end. Hier, c'est vrai, vous étiez nombreux à appeler et puis tout le monde n'a pas pu passer, c'est dommage, hein, vraiment. Donc je vous invite à le faire aujourd'hui. Bonsoir Gérard, de 3. Non, de 3, non. Tu es dans le 03, je ne sais pas.
Non, non. Bonsoir, moi je vous écoute de Moulins-sur-Allier.
Moulins-sur-Allier, c'est à côté de, voilà, de quelle ville?
Moi je suis à Moulins, il y a Vichy.
Oui.
La ville de Vichy, il y a Bourges, il y a Montluçon. Oui. Voilà.
D'accord. Comment on se tutoie, hein, Gérard, c'est plus sympa. Est-ce que Gérard, est-ce que tu peux éteindre ta radio, les haut-parleurs, s'il te plaît?
Oui, attends, oui.
D'accord, hein, c'est plus sympa. On va mieux s'entendre. Oui, je t'entends.
Voilà, oui.
Alors, tu nous appelles de Moulins. Allez, hop, on met Moulins. Oui. Est-ce qu'il y a Moulins? Oh, la question, elle est bête, je sais, mais bon, j'aime bien poser les questions.
Moulins, c'est une ville dans l'Allier qui est à côté d'ici. Il y a le Centre National du Costume de Seine où il y a des expositions de costumes. Ah, voilà, oui. C'est au bord de l'Allier. Il y a l'Allier qui passe.
D'accord.
Il y a le train aussi. Et moi, j'habite juste en face de la mosquée.
Ah, ben ça c'est pratique. Hein?
Ah, ben oui, j'habite en face de la mosquée. Ah,
je ne sais pas si tu vas prier à la mosquée, mais c'est pratique.
Alors derrière la mosquée, oui, il y a la voie ferrée qui va de Paris à Clermont-Ferrand.
Et il y a l'église, juste derrière, non? Il n'y a pas l'église? Elle est où l'église?
Elle est environ à 2 km, là, non?
Elle est plus loin que la mosquée.
Voilà, elle est plus loin que la mosquée.
Ah, c'est bon.
Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont construit une nouvelle mosquée. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que le bâtiment est fait, le toit et tout. Mais il manque les portes et fenêtres. Si il n'y a pas assez de sous.
Ah, il n'y a pas de portes et de fenêtres à la mosquée?
Voilà, la nouvelle.
La nouvelle.
Parce qu'elle était trop petite, là.
Ah, d'accord.
On est tout fait. La nouvelle, il n'y a plus assez de sous. Il y a le bâtiment, il est fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il faut de l'argent et il voudrait de l'argent de pays étrangers, mais ils me disent que la loi les interdit d'avoir de l'argent
de l'étranger. Ouais. Que veux-tu?
C'est dommage parce que bon, là seront petits, on va étouffer là-dedans, on peut pas.
Ah bah oui. Et tu y vas toi à la mosquée?
Non, très rarement.
Ah oui, pourquoi?
Pour un tas de raisons.
D'accord. Peut-être que t'es pas musulman, mais t'as le droit de rentrer dans une mosquée, hein, je pense. Même si t'es pas.
Ah ben, bien sûr.
Ouais. Ah ouais, parce que les lieux de culte, que ce soit mosquée, synagogue et église, sont ouverts à tout le monde. Voilà.
Oui, sur une antenne, sur Europe 1, j'ai dit que les églises, c'était comme les bistrots.
Tout le monde peut y entrer.
C'est voilà, tu as compris. Eh ben, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu que je t'explique.
Ils n'ont pas compris. Non, mais attends, parce qu'ils sont bornés. Non, ils font semblant de ne pas comprendre. Hein. Alors, je ne sais pas, c'est quel bistrot qui dit ça. Quel bistrot, comme on dit, tu fréquentes?
C'est-à-dire, quand moi je rentre dans une église, je peux prier avec n'importe quelle confession, c'est pas grave. Tout, c'est de se retrouver entre se réfère, c'est tout, et de prier.
Mais t'as tout compris. Voilà. Un lieu de culte, c'est un lieu de prière. Et un lieu de prière, ça peut être qu'un lieu agréable, un bon lieu, quoi, un endroit vraiment où il y a les humains qui viennent pour se recueillir. Donc c'est un lieu de prière, mais c'est pas un lieu de haine.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de...
Moi, quand je passe par un petit village en France ou ailleurs, hein, souvent je vais en Espagne, ça vous le savez, j'adore les églises. Alors quand je vois une église ou la porte ouverte, ah, j'ai dit c'est un appel. J'entre et puis j'allume un cierge. Voilà. J'aime bien.
J'aime beaucoup les bougies, je ne sais pas pourquoi.
Ah ben, t'es comme moi. Parce qu'on est spirituel. Ah, oui. Moi aussi, j'en ai tout le temps. Moi, la première des choses, quand j'entre chez moi le soir, j'allume une bougie. Et puis le matin, dans la journée, c'est pareil. J'adore les bougies. Moi, il me faut au moins, minimum, 1, 2, 3 bougies d'allumer.
Ah oui, mais ça me plaît. Ah, cette flamme qui vacille. Oui. Voilà, tu vois, dans l'obscurité, comme ça, on peut faire un dîner, un repas aux bougies. Hein.
Et puis c'est apaisant, la lueur de la bougie. C'est
vrai,
c'est apaisant. Je sais pas, c'est cette flamme qui, dans la nuit... moi, j'aime bien. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qu'il
y a. Il y a pas mal de contes comme ça. Sur la bougie. Comme ça.
Et c'est pour ça que j'aime bien aller dans les églises, parce que je trouve que ces bougies, enfin, qu'on appelle cierges, ces bougies, eh bien, qu'on allume, Eh bien, c'est comme si on, voilà, on met de la lumière. Et voilà. L'appel de la lumière avec, avec le spirituel, bah, ça va bien ensemble.
C'est surtout dans les églises catholiques qu'il y a les bougies. Chez les protestants, non, il n'y a pas.
Ah ben moi, je vais dans l'ordre chez les catholiques, parce que j'ai, là où je vais, il y a toujours des bougies. Une fois, je suis allée, enfin une fois, quelques fois dans le passé, j'aimerais bien y retourner. À Paris, il y a une église qui s'appelle l'église Sainte Rita.
Ah oui, oui, il y a des miracles d'ailleurs.
Alors, ah, mais c'est, oui, alors ça, oui, c'est sûr, parce que c'est, il y a l'âme des animaux, hein, Sainte Rita, puisque c'est, ça, ils bénissent, il y a le prêtre oui. bénit les animaux. C'est pour ça c'est que ça. J'aime cette église. Je me dis, ah, enfin, un lieu de recueillement, un lieu, disons, de prière, hein, voilà, une, un temple, hein, un lieu de prière, où on a pensé aux animaux. Eh ben, Sainte Rita, moi, ça me parle. Moi, dès qu'on m'en a parlé, j'étais jeune, on m'a dit Sainte Rita, c'est l'église des animaux. J'ai dit, ah bon? Ah oui. Alors, j'y suis allée, illico presto. Et j'ai parlé avec le prêtre, ah, oui. il m'a expliqué beaucoup de choses. Ils bénissent les animaux, t'imagines?
Ah, c'est vrai, oui.
Je trouve ça formidable oui. parce que ce ah, sont des créatures oui, de Dieu oui. aussi. C'est et oui. qui méritent aussi, je pense, un temple et un. Aussi un lieu de prière.
Ben, alors moi j'ai deux chats, oh. et y en a une, elle a disparu.
Ah mince.
Je pense qu'on a dû, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Oh là là, ça alors ça.
Voilà. Et alors cette chatte, je l'emmenais partout, même oui. à l'église
oui.
catholique.
Oui.
Ah, je l'emmenais, oui.
Oh là
et
là.
Même pour aller communier. Et un jour, elle était sur mon épaule. Et la chatte, elle ouvre, elle baille. Et le prêtre, il me dit, à qui je donne l'hostie? À ta chatte ou à toi?
Ah, mais on partage, moi j'aurais dit. Voilà. Ah, moi j'aurais partagé.
Alors,
hein,
alors
hein.
Il a caressé sur la tête. Comme ça, alors. Alors à la sortie, tais-toi. J'avais autant de gens qui étaient avec moi que contre. C'est terrible.
Ah, c'est mignon. Alors, en parlant d'hostie, tiens, une anecdote oui. qui va te faire peut-être rire.
Oui.
Alors, c'était en colonie de vacances, j'étais adolescente, hein, t'imagines. En colo, j'adorais les colos, moi. Ah, les colos, ouais, les jolies colonies de vacances.
Les colos, c'est très, très bien.
Ah, mais j'adorais. Bien. J'allais tous les ans en colo, je suis partie partout en France, etc. Et puis, une année, je me souviens, parce que le dimanche, c'était l'église à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait toujours, hein, mais bon, à l'époque, le dimanche, eh bien, on emmenait les élèves qui voulaient bien y aller, hein, voilà. À l'église et voilà pour la messe. Alors moi, curieuse comme je suis, j'aimais bien, moi je l'ai tout ça. Et puis au moment où le prêtre donnait l'hostie, tu sais, mettait dans la bouche l'hostie. Donc il a donné. Bien sûr, il faut être chrétien et puis il faut être comment dire
régulier.
Avoir fait sa communion déjà.
Mais, voilà,
moi, je suis pas chrétienne, mais j'adore les églises. Alors je vais, j'assiste à la messe, je regarde tout ça, j'aime bien. Mais je ne suis pas allée prendre l'hostie, n'étant pas chrétienne. Alors je dis, mais comme à chaque dimanche, je voyais mes copines prendre l'hostie, mettre dans la bouche un truc blanc comme ça dans la bouche, on dirait un bonbon, tu vois, on dirait les bonbons là. Comment on appelle ça, tu sais, les Mistral gagnants. Alors moi, j'avais envie, je disais, quel goût, ça me dit, oh, mais ça n'a pas de goût, si, dites-moi. Et j'avais dit à une de mes copines, je ne sais plus, tu peux pas en garder un petit bout et tu peux me le faire goûter après. j'ai pas goûté, hein, mais bon. Mais quand on est gamin, tu vois, on a des. Voilà. C'est une petite anecdote qui me reste. Ne pars pas, Gérard, on a une petite pause. 01 53 48 3000. Allez, je vous attends. Venez nombreuses et nombreux. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou et plein de tolérance, pleine de tolérance cette émission. Avec Gérard qui nous appelle de l'Allier, hein, Moulin, dans l'Allier. On se raconte des histoires de bougies, d'églises, de mosquées. C'est sympa, vous voyez, il y a une ambiance assez spirituelle ce soir, je trouve. Sinon, tu fais quoi dans la vie, Gérard? Tu travailles?
Moi, je suis retraité.
Tu es retraité? Mais non, t'es pas vieux, y a pas la vieillesse. Comment tu parles, mais t'es jeune, toi. T'as des jeunes qui, franchement, devraient prendre de la graine, hein, qui sont beaucoup plus vieux que toi dans leur tête. Dis-moi, tu as fait quoi dans ta vie avant la retraite?
J'étais dans la photo, le cinéma.
Ah.
Voilà, oui.
Photo et voilà, cinéma, c'est intéressant, ça, dis donc.
Oui, la vente.
Quel beau métier. Ah oui.
On a vu le
magasin,
oui.
Tu as été à la radio, le haut-parleur?
Ah, attends, je l'ai enlevé.
Ah ben voilà. Voilà, Gérard. Oui. Toi, tu as travaillé dans le cinéma, tu sais très bien la technique, comment ça se passe. Alors, tu as travaillé dans le cinéma, la photo, tout ça. Mais c'est génial,
oui,
tu
c'est...
as dû avoir du monde, des stars.
Ah oui, 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 oui. Hein. Ah, ça va de Johnny à Régine, en passant à d'autres.
Ah ouais.
Oui, c'est ça.
Ah, oh, c'est formidable.
Alors, c'est intéressant. Ah, puis ouais. Alors, la photo, c'est très vaste, parce qu'il y a l'expertise photographique.
Ah oui.
Il y a la photo d'art, il y a la photo d'amateur. Il y a,
d'accord.
Il y a, voilà, on travaille pour un tas de...
Comment se fait-il que sur une photo, on n'est jamais les mêmes? C'est bizarre, hein?
Comment?
Est-ce que c'est l'œil du photographe? On n'est jamais les mêmes. Par exemple, sur une photo prise... même, peut-être avec la même tenue, même moment, même coiffure, même tout ce qu'on veut. Mais on, sur l'une, on s'adore, et sur l'autre, on ne s'aime pas du tout.
Ben oui, parce que c'est une question de subjectivité. Ça. Chacun a son coup d'œil. Le photographe, le tout, c'est de saisir l'instant présent naturel et pas artificiel, tu vois. C'est ça.
Tout est dans l'œil du photographe, finalement.
Ben, et puis, il y a le temps, suivant la journée, l'éclairage du soleil, tout ça, les arbres, la nature, c'est très beau. Hein.
Oui. Voilà. Non, mais c'est
mais moi, je suis pas né en France. Moi.
Tu es né où?
Je suis né à Oran, en Algérie.
Ah, t'es né à Oran. Oh, c'est marrant, ça.
Oh, c'est pourquoi toi aussi?
Ah non, 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 mais j'aurais pas pensé, parce que bon, je pensais que t'as toujours vécu dans l'Allier, que t'es originaire.
Non, non, non.
Ah, tu es né à Oran. Enfin, moi, je suis né en Algérie aussi, mais pas à Oran. Mais Oran, c'est une très jolie ville.
À quel endroit tu es né?
Alors, moi, c'est Cherchel. Je sais pas si tu connais Cherchel.
Cherchel, pour ceux
qui connaissent pas. Alors, en ce moment, il y a un film sur Netflix sur Cléopâtre d'Égypte. L'histoire de Cléopâtre. Ah, moi, j'adore. Et à un moment donné, Cléopâtre, on parle de ses enfants. Donc, elle a eu deux enfants avec Marc-Antoine.
Marc-Antoine,
deux enfants, deux jumeaux, un garçon et une fille. Et sa fille, elle s'appelle Cléopâtre, c'est l'aînée. Et donc, quand elle est décédée, Cléopâtre, etc., sa fille elle s'est retrouvée, ils ont pris les enfants qui ont été élevés par la femme, l'ex-femme de Marc-Antoine. Donc, ce qui fait que ils ont été élevés à la romaine, etc. Cléopâtre, c'est l'aînée, s'est mariée avec Juba II, qui était roi de la Numidie, Donc, il a été élevé à Rome, puisqu'elle a été enlevée à 5 ans par César, etc. Donc, elle a été élevée à Rome et tout, voilà. Donc, ils sont mariés tous les deux, Juba II, qui est parti de ma ville natale, Cherchel, et il s'est marié avec Cléopâtre, c'est l'aînée. Ensuite, ils sont repartis en Algérie, mais à l'époque, on appelait ça différemment. Et c'était, ma ville natale, à l'époque, s'appelait Césarée. Au départ, c'était Yol, ensuite Césarée, et après, elle a retrouvé son nom berbère Cherchel. Et Césarée, c'était en l'honneur de César, bien sûr, ça vous l'aurez compris. Et, comment dire? Donc, il est revenu là-bas en tant qu'empereur, roi, tout ce que tu veux. Il a régné longtemps. Il a eu des enfants avec Cléopâtre, c'est l'aînée. Et il y a leur tombeau, qu'on appelle le tombeau de la chrétienne, alors que pas du tout. Voilà où ils sont enterrés. Et qui ressemble à une... C'est un mausolée qui ressemble à une pyramide, mais en arrondi. Tu sais, pas comme on connaît, pyramide pointue, en arrondi. Et donc, Cléopâtre, c'est l'aînée, qui est la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine d'Égypte, enterrée dans ma ville natale, qui a eu des enfants là-bas. Eh bien, si tu... les descendants, c'est-à-dire nous aujourd'hui, sont fiers de leurs ancêtres et de leur histoire, de descendre de Cléopâtre, c'est l'aînée. Voilà. Donc, mais quand je me regarde, j'ai l'impression de lui ressembler un petit peu. Je dois avoir dans mes gènes un peu de Cléopâtre.
Oui, je pense. Alors, donc, désormais, je vais t'appeler Cléopâtre.
Ah oui. Mais je sais pas, ça me parle. Hein. Quand on me dit Cléopâtre, ça me parle. Donc, il y a quelque chose.
Cléopâtre.
Et donc, alors que tu es né à Oran, raconte-moi, toi, pourquoi tu es né à Oran? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que mes parents, ils ont été travailler, le grand-père, tout ça, toute une famille. voilà, de différentes nationalités. Et alors, mon père a rencontré ma mère, et ma mère a rencontré mon père. Et moi, je suis né, voilà, à Oran. Voilà, et la mer, le soleil, ça me manque. Oh, alors, pour compenser un petit peu à ça,
oui.
J'écoute tous les jours Alger Chaîne 3.
Eh bien, tu devrais écouter aussi Beurre FM. Ah, c'est bien, Alger Chaîne 3.
Mais j'écoute aussi Beurre FM. Alger Chaîne 3, il y a de très, très bonnes émissions. Et au début, il n'y avait quasiment pas de femmes qui parlaient. Maintenant, c'est une majorité de femmes, vous voyez. Ah, elles ont triomphé contre les bonhommes.
Ah ben comment? Eh, comment? Bien sûr que les femmes...
Maintenant, il y a des bonnes journalistes et tout.
Ben oui.
Et l'autre fois, en écoutant justement Alger, il y avait un reportage. Et maintenant, il y a la religion qui se mêle là-dedans, certains sont contre. Mais ils aiment beaucoup les bougies, les guirlandes, les sapins.
Ben oui.
Sans y mettre une connotation particulière de... d'une église, tu vois.
Oui, oui.
Ils aiment bien, voilà.
Ben oui.
Et j'ai vu, il y a maintenant des psychologues, des psychiatres, tu vois, il y a toute une évolution. Mais ça évolue par les femmes et les jeunes.
Oui.
Les deux, voilà. Les jeunes demandent plus de liberté de pensée.
Mais oui.
Et les femmes aussi, d'ailleurs.
Ah oui, non, mais ça bouge bien là-bas, ça bouge bien. Il y a beaucoup d'universités, ça pousse comme des champignons. Les gens font des études, mais tu peux même pas imaginer quelle allure ça va. Enfin, les jeunes qui n'ont pas de diplôme dans une famille, c'est même mal vu parce que les familles font tout pour que leurs enfants poussent des études le plus impossible. Et vraiment, hein, c'est ouais, là-bas les études c'est quelque chose de très très important en Algérie. Hein. L'État a mis beaucoup d'argent pour les études, pour les...
Énormément. Mmh. Et tous ces jeunes, ils rêvent tout le temps de venir en France, quoi.
Moi, j'ai expliqué pourquoi. Alors, j'ai expliqué, je ne sais pas si tu es à l'écoute ce jour-là, parce que souvent, ici, quand on entend certaines chaînes de télé, oui, ils viennent de l'autre côté, machin, etc., nous prendre notre pain, notre travail, notre machin, etc. C'est que des bêtises, pour rester poli. Parce qu'en réalité, c'est humain. Je vous explique. Et je t'explique, Gérard. Les jeunes, c'est pas la misère qui les fait fuir, parce qu'il y a pas de misère en Algérie, il faut pas exagérer. C'est pas la misère qui les fait fuir, et il y a rien qui les fait fuir en réalité. C'est juste que c'est des jeunes, que ce qui soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie ou dans les pays d'Afrique, il y a des jeunes là-bas qui font des études, qui travaillent, qui sont pas dans la misère, faut pas exagérer. Mais qui, comme tous les jeunes, parce que ça fait partie de nos, on parlait de cette génétique. Hein, qui est en nous, hein, eh bien, de nomades que nous étions, hein, l'homme cueilleur, oui. Etc., chasseur. On a toujours été, au départ de la vie, l'homme était nomade. Il ne restait pas au même endroit. Tu comprends? Il allait chercher les points d'eau, etc. Et puis, au fur et à mesure, l'être humain, dans ses gènes, il a besoin de voyager, de voir ce qui se passe ailleurs. On le voit avec les jeunes en Europe, qui peuvent voyager, puisqu'il y a ils ont un passeport européen, etc., ils peuvent voyager dans le monde. Sans avoir besoin de visa ni rien. Bah, les jeunes en France, on le voit, eh bien, quand ils ont des vacances, ils projettent toujours en disant « Ah bah tiens, je vais aux États-Unis ou je vais au Canada, ou je vais en Thaïlande. » Enfin bref, on entend les jeunes français tout le temps projeter, partir en vacances, partir quelque part, voyager. Parce que c'est le propre de l'homme que de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc tu vois, ça, on le voit. Et dans les pays, on parle de l'Algérie et des pays d'Afrique du Nord, le Maroc, Tunisie et tous les autres pays, eh bien ces jeunes, c'est les mêmes qu'en France et en Europe. C'est des jeunes qui ont besoin aussi de voyager. Ils sont frustrés parce que on leur donne pas de visa, on les a cloisonnés, on les a enfermés parce qu'on stigmatise à tout rompre ces pays. Donc
ça ne plaît pas du tout, le cloisonnement.
Attends, mais je t'explique. Alors, on a oublié une chose, c'est vraiment inhumain. De ces visas qu'on donne au compte-goutte, parce que on a oublié une chose, c'est des jeunes, et que ces jeunes, eh bien, ils sont comme les autres, comme les Français, comme les Européens. Ils ont besoin de voyager. C'est pas aller s'installer ailleurs qui les motive. C'est juste de voyager, rentrer chez eux. Et comme, ils traversent les mers, on voit bien, dans des embarcations de fortune. Après, ils ne peuvent pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'ils, et puis, sachant que s'ils reviennent en arrière, ils ne pourront plus revoyager. Tu comprends? Donc, il y a un cercle vicieux, il y a un engrenage qui fait qu'ils restent à l'étranger pour pouvoir voyager, bouger, etc.
Absolument.
Mais ils ne fuient pas leur pays. Ce n'est pas vrai. Ils ne fuient pas la misère comme on veut nous le faire entendre dans certaines chaînes de télé. Non. avec ses propos, je dirais même racistes, en disant oui, ils veulent partir parce que chez eux c'est la misère, parce que ceci, parce que cela, stigmatisant, c'est faux. Ces jeunes, c'est des jeunes comme les autres qui ont envie de voyager. Ils ont cette soif de découvrir le monde comme tous les jeunes dans le monde. Et je l'ai dit encore une fois, je le répète, si en France on faisait vivre le même sort aux jeunes Français en leur disant voilà, il y a pas de visa pour aller aux États-Unis, au Canada, ou en Espagne, ou en Italie, tout ça. On leur dit voilà, vous restez enfermés en France, vous sortez pas. Je te promets que ces jeunes Français, si on les enfermait en France sans leur donner de visa, ces jeunes Français, eh bien, ils partiraient dans des embarcations de fortune à partir de la Seine. Ils y attendront même pas. Ils attendraient même pas la Méditerranée, hein. De la Seine.
Mais regardez les Bretons. Et les Bretons, ils ont toujours été des nomades, ils partent partout. Il y en a des marins, il y en a partout, les Bretons.
Et puis les jeunes, ils ont besoin de voyager, c'est la jeunesse. Une fois quand on est installé, on est marié, on a des enfants, c'est autre chose, c'est une autre vie. On a des responsabilités, etc. Donc bon. Mais quand on est jeune, quand on a 17, 18 ans, 20 ans, eh bien on a envie de découvrir comme tous les jeunes de la planète. Pourquoi les jeunes européens, ils auraient le droit de voyager et pourquoi les jeunes des pays du Maghreb et d'Afrique n'auraient pas le même droit? C'est quoi cette injustice? C'est terrible.
Mais regarde, en Algérie, les Sahraouis, tu sais, ça a toujours été des nomades, avec les chameaux, tu vois.
On va même pas jusque-là, tout le monde est nomade. Tout le monde est nomade. Regarde, nous on vit à Paris, on est des nomades. Moi, je peux pas rester 3 ans dans le même endroit, je déménage tout le temps. On a besoin de... Et même à mon âge, j'aime bien voyager. Ah, imagine un gamin de 20 ans. C'est ça. Alors on les empêche de voyager et après ils vont à la télévision dire oui, ils viennent ici, des délinquants, des ceci, des cela, ils viennent parce que c'est pas la misère. Moi j'ai envie de leur dire, moi j'aimerais bien qu'on m'invite sur un plateau télé parce que je tiendrais ce discours. Eh bien ils fermeraient tous leur bouche, hein, pour rester polis. Vraiment, hein. Argument contre argument, hein, parce que c'est pas vide de sens ce que je dis. Et je leur dirais, mais vous racontez n'importe quoi. Est-ce que vos enfants, tiens, Z, je dirais pas son nom, Z et les autres, là, qui stigmatisent à la télé, eh bien, si leurs enfants, on les empêchait de voyager, si on leur disait en France, ben non, pas de visa, vous bougez pas de la France, mais leurs enfants, ils partiraient, mais alors, illico presto, ils sont pas meilleurs que les autres. Il y en a un, je cite pas son nom, mais il y en a un, son fils, eh ben, il a causé un accident, je dirais pas comment, dans quel état il était, il a causé un accident, mais très grave. Donc voilà, et ben si c'était un enfant issu de l'immigration, et ben son père, on l'aurait vu sur toutes les chaînes de télé à toutes les heures dire oui, vous rendez compte, il avait pris des substances machin chouette, vous rendez compte, oui, c'est normal, c'est la cité, c'est ceci, c'est des voyous. Il aurait dit ça alors que son fils a commis un accident très grave. Il est rentré dans une vraiment hein, mais il faut voir hein, l'état des véhicules, très grave parce qu'il était de consommer des choses illicites dans un état pas possible. Eh ben, ou de l'alcool, ou j'en sais rien, il était dans un état pas possible. Eh ben, voilà. Eh ben, il a pas pris le micro en disant, oui, mon fils est un ceci, non. Quelle hypocrisie. C'est ça qui me tue, moi. C'est cette hypocrisie.
Tu vois, écoute, sur tous les plans, si on empêche les jeunes de voyager, ils peuvent tourner mal.
Bah bien sûr, parce que c'est pas qu'ils tournent mal. La plupart, ils tournent pas mal. Hein. 99%, ils sont très bien, la vérité.
Non, mais si on les bloque trop à un endroit, tu vois, si on les bloque, il faut les laisser avoir des expériences. Voilà,
on leur laisse pas, on leur ferme les portes. On les laisse pas voyager. On les laisse pas, Gérard. On est là pour les stigmatiser quand ils traversent les mers, parce qu'on dit, ouais, c'est la misère. Comme si c'était des gueux. Tu sais ce que c'est? Des gueux. Eh bien, on en parle comme ça. Oui, ils traversent la mer, mais ils sont très bien, ces jeunes. Chez eux, ils vivent. Ils ont des maisons, ils ont des habitations, ils vivent très, très bien, ils ont du travail. C'est des gamins qui sont cultivés. Peut-être qu'ils parlent pas couramment la langue française parce que c'est pas la langue qu'ils ont étudiée dans leur pays. Mais ils ont des diplômes autres que des diplômes français, mais ils ont des diplômes. C'est des jeunes qui sont issus de familles qui les ont bien éduqués. Sauf que on leur donne pas la possibilité de voyager. Eh ben, on leur donne pas tous les moyens. Voilà, ils essayent. Voilà, c'est comme un oiseau, on peut pas l'empêcher de déployer ses ailes et de voler.
Non, c'est absolument. Et alors moi, en Algérie, j'ai rencontré Camus et sa famille.
La famille de Camus, alors.
Camus, oui.
As-tu rencontré Camus?
Oui, j'étais très sympathique.
Ah, alors, bah dis donc.
On ne parlait pas politique, on parlait littérature.
Ah bah oui.
Ça.
Ah bah oui.
La vérité, tu vois, oui. Tout ça. Voilà, il y a des...
Ah bah oui, et comment?
Oui, il a écrit de très belles pages sur l'Algérie.
Ah bah oui, non mais Camus, moi j'ai beaucoup lu Camus et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il avait, le premier livre que j'avais lu c'était L'étranger, je crois, L'étranger. Ouais.
Ah oui, La peste.
Ouais, et La peste, oh là. Ouais.
La peste, ouais. Puis, comment il s'appelle ce petit village, j'ai mangé, où tout le monde se dit bonjour en Algérie, il a écrit ses très belles pages là-dessus.
Ah oui.
Ça va me revenir le mot.
Oui.
C'est pas Annaba, c'est... Ça va me revenir.
Ah oui,
alors moi le soleil ça me manque, la mer, les bateaux, la montagne, tout ça, un peu tout comme ça.
Ben oui, mais tu peux retourner en Algérie quand tu veux, les portes sont ouvertes, hein, quand tu veux mon Gérard. Gérard, ne pars pas, ne pars pas, je te reprends tout de suite. Oui, alors donc le fils du père dont je tairai le nom, hein, voilà. Eh bien, il avait un taux d'alcoolémie, hein, c'est ça. Hein, parce que quand on regarde, voilà, hein, entraîné, paf, 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 circonstances aggravantes, son alcoolémie positive, voilà. Et la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence, de sécurité, voilà, il est condamné à ça et tout ça et tout, tout, tout. Voilà, eh bien, voilà, alors que si c'était le fils de... un Kamel, Mohamed, je ne sais pas qui aurait commis un accident pareil. Ouh là là, le père, vous le voyez le lendemain. Le lendemain, alors là, il ne dort pas de la nuit tellement il a hâte d'être sur les plateaux télé pour dénoncer, pour dire, bah, vous voyez, regardez, paf, 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 les accidents, eh ben, l'alcool ou la drogue, ou j'en sais rien. Vous voyez l'hypocrisie, jusqu'où ça va. Allez, 01 53 48 3000, on marque une petite pause et on revient avec vos appels, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, bah, disons, à 7h du matin, il était déjà alcoolisé. Il a peut-être pas fini. Il avait bu toute la nuit, j'en sais rien, mais dis donc. Donc, il roulait à vive allure au volant de sa voiture lorsqu'il aurait refusé une priorité et percuté un scooter monté par deux personnes. Voilà, vous vous rendez compte ? Percuté deux personnes. Le conducteur de l'engin grièvement blessé, le pauvre celui qui était sur le scooter et qui était dans son droit, quoi. Le conducteur de l'engin grièvement blessé aux deux jambes a été transporté au CHU de voilà. Et en plus dans la voiture, au-delà du fait qu'il avait un taux d'alcoolémie, il avait tenez-vous bien, hein, vous imaginez si c'était un ador ou il avait un couteau dans la voiture. Un couteau a été retrouvé dans la voiture. Conduite par ce jeune homme. Voilà. À imaginer la même scène, un jeune issu de l'immigration qui refuse la priorité à un scooter ou une moto et qui lui rentre dedans et qui le blesse grièvement, n'est-ce pas ? Donc la police arrive, on lui trouve un taux d'alcoolémie bien, et en plus un couteau dans la voiture. Vous imaginez ? Vous imaginez si c'était un gosse de cité. Le père, le lendemain, bah, vous voyez, regardez, tous les mêmes, un couteau. Mais qu'est-ce que le couteau faisait dans la voiture? Ils ont tous des couteaux. Il dirait ça. Mais là, c'est son fils. C'est bizarre, on l'a pas entendu. Comme quoi, le karma. Ah oui, le karma, moi j'y crois, hein, le karma. Vraiment, le karma, c'est... Ben, c'est l'univers qui vous renvoie ce que vous commettez. C'est-à-dire, tu... Voilà, ce que tu fais, si tu fais du bien, il te renvoie le bien. Tu fais du mal, il te renvoie le mal. Adéia, le karma, puni par là où on pêche. Voilà, à force de dire les enfants, les fils de machin, les jeunes de banlieue et tout, les son fils, l'alcool, l'accident, le couteau, tchaklala. Voilà, si j'étais lui, je me cache la vérité. Voilà, 01 53 48 3000. Gérard, tu ne pars pas. On va prendre. Alors, on a Fatima, on a Soued, on a Isma. Isma nous appelle du 78. Bonjour Isma.
Bonjour Vanessa.
Bonjour, bienvenue Isma. Et toi, tu vas bien?
Oui, ça va très bien. Ça fait longtemps que je peux parler avec toi.
Eh ben, écoute, ça me fait plaisir de t'entendre ce soir.
Ah, moi, je te jure, vraiment, je t'entendais ce matin.
Ah, au titre d'annonce.
Voilà. Et j'ai promis d'être là à 9h.
Ah, formidable.
21h. Pour l'histoire de la dame qu'elle demande qu'elle cherche une femme pour son mari.
Ah oui.
Et elle a dit qu'elle va te raconter une histoire.
C'est toi ?
Vraiment. Non, c'est pas moi.
Elle est où ?
Non, moi je suis.
Elle est où ? Oui, c'est vrai, je l'attends.
Bah, ce matin. Voilà, ce
elle
matin,
a dit, oui, elle oui. cherchait. Elle cherche une femme pour son mari.
Exactement. Et toi, tu lui as dit, rappelle ce soir.
On l'attend. Hein.
Et on l'attend. Et elle,
on l'attend. Hein. Comment elle s'appelle déjà après, attends, je ne sais plus.
Hafida, un truc comme ça.
Fadela.
Ça y est. Voilà.
Fadela, tu es où, Fadela? Tu as dit, tu cherches une femme pour ton mari. Viens nous raconter. Tu as dit oui. En plus, Halfetley, tu as vu, je lui dis Halfetley.
Si, si, Wallah, tu me dis Halfetley.
Ah ouais. Halfetley.
Et après, elle a dit, même je te raconte une histoire vraiment hallucinante et grave. Et ah ce oui, soir, elle dit, je vais incroyable. Être dans les premiers.
Ah oui.
Et je croyais que j'ai raté parce que.
Non, tu ne l'as pas raté. J'ai eu Gérard Hanamaken. Je t'attends, bravo. Fadila. Viens, Fadila. Voilà. Viens raconter cette histoire. Que tu voulais raconter, qui est une histoire.
Exactement. Donc, ouais. Ce matin, je pense à ça.
Ah, tu vois, bah, écoute, moi, je l'attends. Elle va venir. Elle ah l'a bon. Dit, elle va venir. Et en ah plus, bon, voilà. on l'a chauffé.
Donc, j'ai rien raté.
Tu n'as rien loupé. Là, donc, reste à l'écoute. Voilà. Ne pars pas.
Voilà. Et pour l'accident, là, franchement.
Oui. Hein, franchement.
Voilà. T'as vu ? T'as raison, hein. C'est vrai.
T'as vu ?
Ouais.
C'est un autre. Il a une langue pendue. Les immigrés, ah oui. Les machins, les jeunes. Alors, les jeunes, dans sa bouche, c'est tous des, voilà. des coupeurs de tête, quoi, quand tu l'entends.
Exactement.
Hein. Ah,
exactement.
Les jeunes de banlieue, ta. On bah, en oui, entend des verres qui n'est pas mûrs. Voilà. Chauffeur B. Alors, regarde. Le karma. Ah oui. Eh bien, son fils, accident. Grave. Voilà. Il faut voir, hein, l'état de la voiture et tout, scooter, je te raconte même pas, en marmelade. Le conducteur de la moto Mskin, les jambes, je te raconte pas dans quel état il est.
Oh.
Et quand ils ont fait les tilotests, là, eh bien, il a un taux d'alcoolémie. Je te laisse répondre, Solal, s'il te plaît.
Oh.
Un taux d'alcoolémie et dans la voiture, il y avait un couteau.
Ben oui.
C'est-à-dire voilà. Tout ce que lui,
il a fait aux autres.
Tout ce qu'il dénonçait en disant, ouais, ils ont des couteaux, ils ont.
C'est ça. C'est ça. Voilà, en plus, ça m'est arrivé vraiment. C'est une histoire bête, mais parce que nous, dans le 78, où on habite, on est 5% les Arabes, ça, il n'y en a pas beaucoup. Et mon fils, il est au collège, et il y a un vélo qui s'est fait voler. Donc, on reçoit un appel de la commissariat.
Oui.
01, je réponds pas, mon mari il répond. Il m'appelle, il me dit, t'as vu ? Apparemment, il dit, il a volé un vélo, machin. Je dis, non, c'est pas possible, c'est pas mon fils. Et après, non, les caméras, elles montrent que c'était lui parce qu'il était là avant-hier avec les copains. Et ça, ok, d'accord, on suit l'affaire, on va au commissariat. Et moi, je sais pas, c'est le sentiment, c'est pas mon fils, c'est pas lui, il fait pas ça. Quoi ? Et on arrive au commissariat, le caméra, bah non, c'est pas Iliès. Pourquoi ? Pourquoi vous dites c'est lui ? Parce qu'il fait rien ? Parce qu'il a la tête de Arbi ? Voilà. Et c'était ça. Et à la fin du compte, non, c'était pas lui. Mais
c'est incroyable.
Sans te mentir, j'ai passé une semaine d'enfer.
Tu vois, c'est incroyable.
À l'intérieur de moi, je dis non, c'est pas lui. Mais quand je regarde, oui, il y a les caméras, il y a les preuves, il y a ça, c'est pas possible. Allez, dis-moi s'il te plaît. Non, maman. Voilà, c'est pas moi. Ouais. Mais. Voilà, je comprends tout à fait qu'est-ce que tu dis là pour eux.
C'est dingue, hein, tu vois, comme quoi. Ouais, c'est incroyable.
Comme tu as dit, le karma, alhamdoulilah.
Le karma, alhamdoulilah. Voilà, bah écoute, voilà. C'est Al-Aish Tchouf, comme on dit. Hein.
Exactement. C'est
merci
vrai,
en tout cas, Maïsma, merci d'avoir appelé. Reste à l'écoute.
Toi,
on va certainement avoir Fadila ce soir. D'accord.
Là, je suis à l'écoute jusqu'à 11h.
Eh bien, parfait. Je t'embrasse fort, Isma.
Moi aussi.
À plus tard. Bisous. C'est vrai, ce matin, j'ai Fadila qui, aux petites annonces, qui dit, écoute, c'est très sérieux ce que je dis, c'est peut-être particulier, c'est sort de l'ordinaire, je cherche une femme pour mon mari. Je lui dis, écoute, viens ce soir. Et elle a dit, je viens. Bon, écoute, on t'attend, Fadila, franchement. Allez, c'est pas tu promets, tu jures et tu fais pas. Ça, j'aime pas, hein, la vérité, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Soued. Fatima, tu pars pas. Toi, tu fais partie de la maison et des meubles. Soued, bonsoir.
Bonsoir, charmante Vanessa, la belle dame à la voix chaleureuse.
Oh là là, ah, ça me touche.
C'est la vérité, franchement, je vous admire. Franchement, vous êtes très belle, vous avez une voix chaleureuse, vous êtes fantastique, wonderful.
Oh là là, merci un milliard de fois, t'es un amour. Je suis très touchée. Attention, je vais être timide là, hein. Je vais rougir.
Non, non, c'est la vérité, c'est la vérité. Je suis franche. Hein.
Je
vous jette pas des fleurs, hein. C'est la vérité.
Eh ben, écoute, merci Souhaït, vraiment, je suis toute herbichalik. Tu voudrais parler de quoi, Souhaït, ce soir, dis-moi.
Mais parce que j'ai, enfin, c'était Gérard, il a parlé de d'Oran, et moi je suis d'Oran.
Ah Ouaran. Ouaran oui. Behia, mon Dieu.
Ouaran Behia, ça m'a touché, et puis... Et c'était l'occasion de vous parler en même temps de parler de Oran, ma ville natale.
Ben écoute, c'est une des plus belles villes d'Algérie, hein. Ça on peut pas le nier. Hein. Elle est ouverte sur l'Occident, elle est ouverte. Ouais. D'ailleurs, les Oranais parlent tous espagnol. Et, c'est une et quand on va à Oran, bien, c'est comme si on allait prendre une bouffée d'oxygène.
Ouais.
C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai, les Oranais sont.
Voilà, bienvenue chez moi. Hein.
Ah, mais moi j'adore, moi j'allais tout le temps à Oran à un moment donné, hein. tout le temps.
Oui.
Les Andalous, tout ça, j'adore Oran.
J'adore Oran,
j'adore l'état d'esprit des Oranais aussi. Très accueillants, très ouverts d'esprit, ils se prennent pas la tête, vraiment.
Oui,
vraiment, hein. Moi j'aime beaucoup Oran, hein. Vraiment. Et je vais te mettre avec Gérard, tiens.
Cléopâtre, tu m'écoutes?
Bah, tu entends Gérard, voilà.
Oui, Cléopâtre, écoute, la ville, je me rappelle, Tipaza.
Ah, Tipaza. Ben oui, c'est à côté de ma ville natale, Cherchel, Tipaza.
Voilà, c'est là où il a écrit Camus, de très belles pages sur Tipaza.
Ben oui, sur les rochers.
Très belles pages.
Sur les rochers, Tipaza.
Les rochers, tout ça, et puis la mentalité, tout le monde se croit, se dit bonjour, il y a une grande convivialité.
Ah ben écoute, on parle d'Oran, la convivialité oranaise. Tiens, t'as une oranaise, une compatriote avec toi, elle s'appelle Souhaïd, elle est là.
Sarena, bonjour, Sarena, bonjour.
Bonjour, monsieur Gérard.
Voilà, on est des sœurs, on est des Oranais.
Ah oui, des Oranais, oui. Oran, elle est belle, c'est une belle ville, hein.
Ah oui.
Ah bah écoutez, apparemment, il garde de bons souvenirs d'Oran, hein, Gérard.
Ah,
c'est sa ville natale.
Ah oui.
Ouais. J'ai étudié là-bas, j'ai enseigné là-bas. Oui.
Ah, tu as enseigné. Ah, tu as connu Santa Cruz aussi, Marcel Kébir.
Oui, bien sûr, oui, Santa Cruz, bien sûr.
Une Oranaise qui
ne
connaît pas Santa Cruz.
Et puis aussi, les très belles plages de sable.
Oui, les Andalous, Boussefère, Corrales, Beaumont, Bousseville, oui, tout ça, Antwerp, oui.
Eh oui, tout ça. Des souvenirs.
De bons souvenirs.
Oui, et qui a donné de grands chanteurs, hein, de Rai, hein, Hasni.
Ah oui, le Rai, oui.
Ah oui. Ah oui, vraiment. Hein.
Ah oui.
Alors, dites-vous des choses. Tiens, toi, tu es né dans quel quartier d'Oran, Gérard?
Moi, je suis né en ville, après, on a habité à Saint-Eugène.
Ah, Saint-Eugène, tout près de chez moi, c'est Delmonte. Moi, je suis né à Delmonte.
Oui.
Saint-Eugène, Bel Air et Delmonte.
Delmonte, tout ça, oui.
Ouais.
Et puis, moi, j'aime bien, c'est là. Il y avait la montagne des Lions du côté de...
Oui, de Gdil. La montagne des Lions, oui.
Wow. Voilà. Et puis Santa Cruz.
Santa Cruz,
sur le monument,
avec
le mur Diageo, là.
Ah oui,
les montagnes.
Il y a le téléphérique.
Comment?
Le téléphérique.
Voilà, là-haut, tout ça, c'est. Et puis le Sahara, après, t'as tout. Hein. T'as Colombie-Sahara.
Ça fait une semaine, j'étais à Oran. Oui, une semaine.
Oh.
Oui, j'étais à Oran.
Oh Gérard, regarde, genre elle a fait wow, il aurait aimé faire partie
de Ah oui, ah oui, ah oui.
Ah oui, ça a changé. Depuis quand il était là-bas depuis quand?
La dernière fois. Solal, j'ai besoin de toi, Solal, le standard. Alors, la dernière fois, c'était quand?
À qui tu peux m'accueillir? C'est à moi?
À toi, Gérard. Oui, c'est à toi. Elle a dit la semaine dernière.
Oh, ça fait des dizaines d'années, je voudrais y retourner de temps en temps.
Ah, ça a changé, ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est une autre ville. C'est
ça a
une...
grandi, enfin,
ça a changé,
poussé.
Ça a beaucoup. C'est...
Et puis, est-ce que tu as connu la Grande Septra?
Comment?
La Grande Septra.
La Grande Septra?
Septra. Oui, la Grande Septra. Là où il y avait une partie du désert. C'est... C'est un désert aussi, c'est pas, ah, c'est oui. pas loin d'Oran, oui. D'accord. Puis moi j'aime bien le Sahara, les étoiles la nuit, oh, c'est magnifique.
Oui, le Sahara, c'est à part le Sahara, là, il y a le Tariq à côté de Béchar,
ah,
oui.
Ouais, Béchar. Sahara, c'est Béchar. Magnifique, Béchar.
Oui, il y a 800 km d'Oran, oui, ouais, Tariq, ouais. C'est beau, c'est
ouais,
très beau.
Ouais,
il y a les dunes, ah, il y a les... Oui, c'est beau, oui, oui. Tandis qu'Oran, c'est l'ouest de l'Algérie.
Oui.
C'est ça, voilà.
Alors Gérard, oui. Tu ne quittes pas, Souhaïd non plus. Je vous reprends juste après. Fatima, petit peu de patience. Farid, Samir et Samia. Samia, ne pars pas, je vous reprends juste après. Gérard, je sais que tu es à l'écoute. Souhaïd également. Et tous les Oranais sont à l'écoute. Vous êtes à l'honneur ce soir. Et on va faire plaisir à Gérard, qui est né à Oran et qui ce soir eh bien, a l'impression de voyager et d'être un peu là-bas. Eh bien, pour toi, Gérard, et pour et puis pour les autres aussi, et beaucoup pour toi. Écoute, écoute bien. Alors, si tu l'as. Bon, alors mets-nous le Solal, regarde-moi. Tu mets le jingle. Voilà. Quand c'est comme ça, on meuble avec le jingle en attendant de retrouver. Voilà le son. Alors, petite surprise pour Gérard. On s'impatiente pas, on est en train de chercher, on va trouver, vous inquiétez pas, qui cherche trouve, n'est-ce pas?
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, la très jolie voix qu'on aime tant de Khaled, qui chante Waharan comme personne, vraiment, qui met Waharan à l'honneur. N'est-ce pas Souhaïd et Gérard?
Oui, Vanessa, moi, j'aimerais bien que tu me passes, j'aime bien les grands orchestres arabes d'Algérie, de guitare, violon, piano, tu
ah,
sais.
Ah, mais on en passe, on en passe, c'est vrai que tous les soirs, on passe des sons différents.
Si tu pourrais m'en passer un petit
morceau. Ah, il n'y a pas morceau. De souci. Eh ben, je te promets, je te fais. Gérard, je vais devoir te laisser parce qu'on a beaucoup d'appels. En tout cas, je te fais de gros bisous.
Oui.
Et
merci.
Reviens, tu es chez toi. D'accord?
Voilà. Inch'Allah.
Ah, Inch'Allah. Alors, très bien. Bisous. Adorable. Souhaïd. Voilà,
oui.
C'était aussi pour
merci
toi,
beaucoup.
Warren, ma chérie. D'accord.
Merci beaucoup, charmante Vanessa. Merci beaucoup.
Je t'en prie, ma chérie. Je t'embrasse fort. À bientôt.
Moi aussi.
Au revoir.
À bientôt.
Merci. Warren, qu'on aime tant. Ben oui. C'est vrai que Khaled, sa voix, waouh, quand il chante Warren, waouh, 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 waouh. Wow. On a tous nos sens en éveil. 01 53 48 3000. Samia de Bordeaux, bonsoir. Fatima, tu pars pas. Hein. Bonsoir Samia.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Samia. Bienvenue. Comment merci. Ça se passe à Bordeaux?
Ça va. Ben j'ai Gérald m'a secoué un petit peu parce que je viens de rentrer d'Oran.
Ah toi aussi.
Je suis rentrée hier.
Ah.
Il a parlé des endroits que voilà. Il a parlé de Saint-Eugène. Je suis née à Saint-Eugène.
Ah Rianès.
Il a parlé de Santa Cruz. Cette fois-ci, je suis allée au fort de Santa Cruz. J'ai pris wow. des vidéos. Yeah. Il veut même, voilà, les avoir. Je lui laisse mon. J'ai pris des photos. Je suis wow. rentrée dans la chapelle. Il a parlé de Murjajo. Je suis montée. On a pique-niqué là-bas. Cette fois-ci, c'était la totale.
Wow.
Je suis même allée à la résidence. De Yves Saint-Laurent, là où il est né, dans les quartiers des plateaux.
Oui.
Oui. Et c'est pour ça que je voulais parler avec lui. Je pense qu'il est de la génération de mon père, vu la
oui.
voix.
Oui.
Et voilà, c'est à Oran, il n'y avait pas que Ahmed Ouahbi et tout. Hein.
Non.
Il y avait des chanteurs d'origine juive et mm-hmm. tout.
C'est
comme
vrai.
La Renette Loranaise.
Renette, oui, oui,
voilà,
effectivement.
Maurice de Medioni, un quartier très populaire. Et voilà, hein, c'est Oran, c'est pour ça on l'appelle Beria, c'est la joyeuse.
La joyeuse.
Ça a toujours été.
C'est
J'ai
vrai.
Assisté au mariage de ma nièce, il a réveillé, enfin, c'était une ambiance purement oranaise.
Waouh, on adore.
Qui m'a fait du bien.
Aïe,
chez
aïe,
nous,
aïe.
Pour les femmes, c'est le Medderhet, et ça,
c'est
ça a
vrai.
Été vraiment, 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 sincèrement, hein. Là, je reprends le travail, la tête bien remplie de souvenirs.
C'est super. C'est vrai que l'ambiance oranaise, elle est unique. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. L'ambiance oranaise, elle est unique, vraiment. Oui. Les Oranais, ils savent mettre l'ambiance, vraiment. C'est vrai. Ça, on peut pas nier.
Il y a aussi, il y a eu le passage des Espagnols. Les Espagnols, c'est des bons vivants.
Ah ben oui. C'est vrai qu'il y a
ce croisement
entre l'Europe et l'Orient. Hein, c'est bien Oran. Ouais. Et d'ailleurs, les Oranais parlent espagnol. Il y a beaucoup de termes dans le langage oranais, derja oranaise. Ouais. Dans le langage oranais, il y a des mots d'espagnol qui reviennent.
Les mamies parlent espagnol, hein, jusqu'à
c'est
maintenant.
Ça. C'est vrai.
Jusqu'à maintenant, elles n'ont jamais été à l'école, mais elles ont côtoyé les Espagnols.
C'est fou, hein?
Oui.
C'est incroyable.
Oui.
C'est ce qui fait la richesse et la beauté d'une région. Voilà. C'est tous ces croisements, tous ces mélanges et. C'est beau les mélanges, alors que quand tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas de ces mélanges. Et on entend tout à l'heure, on parlait de certains plateaux télé ou certains invités qui critiquent.
Moi, sincèrement, ça m'a fait chaud au cœur par rapport aux autres années. Dans l'avion, il y avait beaucoup de Français.
Ah oui.
Il y avait beaucoup de jeunes et j'ai parlé avec eux.
Oui.
Et c'est des jeunes qui ont eu leurs grands-parents et tout.
Mm-hmm.
Qui c'était des pieds noirs. Ils m'ont dit, on était surtout l'événement là, le dernier, la coupe là, le truc, l'événement sportif. Au rang, pour certains, ils ne connaissaient pas. Hein. Et de là.
Ah, les jeux méditerranéens. Jeux,
oui. Ils ont été, Miloud, le complexe, là, c'était mon voisin.
Mm-hmm.
C'était mon voisin de la Rahma. Et puis, moi, je suis d'Orodanron. Hein. Je suis vraiment.
Ouarania, une vraie Oranaise du terroir.
Voilà, une vraie Oranaise. J'aime toute l'Algérie, mais. Oui, mais Oran, elle a une, je sais pas, c'est une vie qui est très.
Qui est cosmopolite aussi, hein, c'est vrai qu'Oran, il y avait un mélange chrétien, juif, musulman, etc. Et
les familles restent, les vraies familles oranaises, elles restent toujours ouvertes d'esprit. Hein.
C'est vrai.
C'est pas vrai. Le passage des années 80. Non, il nous a pas touchés, nous, les vrais Oranais, non.
Oui, beaucoup moins.
Oui.
Effectivement, c'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est tant mieux, hein, tant mieux, vraiment. Hein.
Ah oui,
que cette ville reste intacte et telle qu'on l'aime, hein, et comme elle l'a toujours été. Hein.
Oui, qu'on l'aime. Et puis moi, j'ai été contente, je suis montée au fort de Santa Cruz, très bien entretenue.
Ah oui.
Il y avait des coopérants, il y avait des jeunes immigrés d'ici, qui prenaient des photos. Gérard,
s'il
veut que je lui envoie des vidéos et tout.
Gérard, si tu es à l'écoute, voilà, oui, si tu veux des photos, des vidéos. Je note ton numéro s'il le demande. Tu veux bien qu'on lui remette ?
Oui, pas de souci.
D'accord, bah écoute, je le note là en ce moment, en même temps que je te parle.
D'accord.
Donc Gérard, voilà, tu vois, notre ami se propose de t'envoyer des vidéos, d'entrer en contact avec toi et te montrer Santa Cruz.
La nostalgie n'a pas de... Ah oui.
Oui, il a la nostalgie, on sentait, hein, parce qu'il en parlait avec...
On sentait.
Eh bien, on est là pour, justement, pour pas nourrir forcément cette nostalgie, mais au contraire, pour l'enrichir.
Hein,
voilà. Ah, et puis, apporter ce qu'on peut. Ah, Samia.
Ah oui.
Eh ben écoute, ton appel fait plaisir en tout cas. Hein, tu rentres d'Oran et ça c'est une très bonne chose, voilà, de l'apprendre.
Sincèrement, de temps en temps, il faut retourner aux sources.
Aux sources, exactement. C'est vrai.
De temps en temps, il faut le faire.
Ouais, je suis d'accord.
En tous les cas, je vous souhaite une
merci.
Et merci Vanessa pour tout ce que vous faites.
C'est gentil.
Moi, je vous écouterai. Mais j'aime bien vos émissions.
C'est gentil.
C'est varié, c'est très varié, c'est bien.
Merci.
Et ça traite en même temps certains sujets.
Oui, important, c'est vrai.
Oui,
très vrai.
Oui. Mm-hmm. Oui, merci.
Merci aussi d'être fidèle.
Merci à toute l'équipe aussi. Hein.
Merci d'être fidèle à Beurre FM. Je t'embrasse fort, Samia. À bientôt. 01 53 48 3000, on va prendre. On a Fatima Destin, on a Samir aussi, Farid. Mais avant, eh bien, un petit coucou. Un petit coucou à qui ? Coucou à... Donc, je suis en train de chercher. Eh ben ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Alors, alors du côté de, alors c'est pas très loin, hein, dans le 92. Alors à Cérine, ah c'est ça. Un truc à demander, ma fille Cérine a parlé de toi. Alors non, Cérine, oui, Cérine et Anissa. Je vous embrasse fort, Cérine, Anissa. D'accord. La maman Anissa et Cérine, c'est la fille, hein, la mignonne Cérine. Qu'on embrasse très très fort et puis on lui souhaite de faire de très longues et belles études, Cérine. D'accord. Et je profite de l'occasion pour embrasser une amie, je crois que c'est une, la maman d'une camarade de Cérine, qui s'appelle Hoda. Voilà, Hoda, qu'on a, on l'embrasse. Hein, voilà. Et alors, Hoda, c'est la maman de Liesse. On me dit de Liesse, de Châtenay-Malabry. Voilà, la maman de Hoda. La Hoda, pardon, la maman de Liesse, je vais y arriver. Hoda, c'est très joli comme prénom, j'aime beaucoup, c'est pas commun. Voilà, de Hoda de Châtenay-Malabry. Si vous connaissez Hoda de Châtenay-Malabry, ben voilà, je la mets à l'honneur ce soir. Et son fils Liesse également à Châtenay-Malabry, je vous embrasse fort. 01 53 48 3000. Alors, qui que quoi donc où? Allez, on va prendre Samir. Fatima, je te prends en même temps. Je te promets. Et les autres, venez, il reste de la place. Hein. Bonsoir Samir de Paris.
Allô, bonsoir Vanessa.
Bonsoir, comment vas-tu Samir?
Ça va et toi?
Ben écoute, je vais bien. Tiens, on va prendre Fatima avec nous. Allez, soyons fous. Fatima, Samir, Farid. Allez, tout le monde.
Une triplette, alors.
Oui.
Bonne soirée.
Alors, bonsoir, bonsoir Samir. Vanessa. Et Fatima.
Bonsoir, Samir.
Comment vas-tu, ma Fatima? J'aime bien, tu arrives avec le sourire, toi. J'adore.
Toujours, moi. Toujours.
Ah, mais j'adore.
J'ai égayé ton émission.
Ah, mais j'adore. Mais ta voix, déjà, elle est joyeuse. Elle est magnifique. Et elle va très bien avec le jingle, tiens, avec le son.
Ah, t'as vu?
Ah, ouais, vraiment. Alors, ma Fatima, tu as entendu un petit peu ce qu'on s'est dit ce soir et puis
ah, ben, c'est soirée oranaise.
Soirée oranaise, soirée, ce que vous voulez, hein, mais soirée quand même. Hein. Voilà.
Non, c'est bien, c'est bien. Ben, les gens, ils se remémorent les bons souvenirs et c'est très bien. Que du positif.
C'est fou parce que nous, les humains, on a toujours besoin de revenir un peu sur son passé.
Oui, parce qu'on a besoin de se ressourcer. On a besoin de se ressourcer, Vanessa, c'est normal. C'est humain.
Du plus loin qu'on avance et qu'on s'éloigne de sa terre natale, eh bien, on s'en le cœur quelque part, eh bien, et cette mémoire qui est.
Il revient aux sources.
Ben voilà.
Oui, mais Vanessa.
Il a besoin de se régénérer.
C'est magnifique. Oui, Samir, tu peux parler, bien sûr, tu peux parler. Voilà. Alors, vas-y, Samir, vas-y.
Il faut apprendre de nos erreurs aussi, c'est pour ça. Parce que vous dites toujours, il faut parler, il faut se souvenir des choses positives, mais des choses négatives aussi.
Ouais, mais attends, arrête de plomber l'émission, toi, parce que t'es tout le temps en train de plomber.
Samir, on va te blacklister.
Fatima, t'as vu,
j'essaie. On va te blacklister, hein.
Non, mais je l'ai déjà blacklisté longtemps, il le sait. Mais tu vois, regarde, j'essaie de lui redonner sa chance, je suis gentille et tout. Mais à chaque fois, il vient. Il faut tout le temps. Il peut pas. Voir qu'elle a dans sa vie, Samir, sans polémique. Peut-être, je sais pas, il s'ennuie, Wakela. Parce que sans polémique, il peut pas vivre sans. Faut tout le temps qu'il titille les gens, qu'il provoque. C'est vrai ou pas? Attends, on va le reprendre.
Non, non, c'est pas ça, c'est que, franchement, Vanessa, enfin.
Mais laisse-nous, attends, là on parle de notre ami, comment? De notre ami Gérard, qui a appelé, qui. Il est à l'écoute, là, Gérard. On lui a fait. On lui a dédicacé une chanson. Et puis on a eu des auditrices agréables. Isma. Souhaed, un amour, tu vois.
Voilà, qui ont été sensibles à ce qu'il
Samia,
a dit.
Voilà, exactement, qui a laissé Samia son numéro de téléphone pour lui laisser carrément son téléphone pour lui envoyer des vidéos. On est dans la positivité, dans la position la plus positive qui soit. Eh ben non, Farid, il arrive avec ses gros sabots.
Samir,
pas Farid. Samir, parce qu'il y a Farid juste après, mais Farid, c'est encore une autre histoire, Farid. Hadak Balek, Badak.
Oui, mais Hadak, comment il est drôle. Hadak
aussi, il est blacklisté. Hein. Hadak, tu sais, Farid, tu sais ce que j'ai fait? Il appelle dans les petites annonces. Alors, moi, je passe tout le monde, c'est normal, les auditeurs. Oui. Il dit, voilà, je crois que c'est lui. Il dit, je cherche un livre.
Sur l'Algérie.
D'Yves Courrières sur l'Algérie, alors que tu trouves ça partout sur Internet. Moi, j'ai cherché, j'ai vu, t'as que ça. Il y a des sites comme Rakuten, tout ça et tout. Plein de sites Amazon. Allez, tu vas, tu tapes, Yves Courrières, il est partout. Mais il cherche, j'ai dit Khalem, ce qui est peut-être, il veut parler. Bon, il veut s'exprimer, on le laisse. C'est normal, c'est son droit. Alors, je veux, machin, etc. et tout. Il y a une auditrice très gentille, Niamskina. Qu'est-ce qu'elle fait?
Fatima.
Ouais, voilà, Fatima. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le numéro de téléphone, elle est à l'écoute. Elle prend le téléphone. Et puis elle l'appelle. Et elle lui dit, bon bah écoutez, voilà, j'ai trouvé tel site, vous allez le retrouver, ils le vendent et tout, allez-y, voilà, le lien et tout. C'est pas Mskina, qu'est-ce qu'elle a pas fait là? Oh, elle a fait l'erreur de sa vie. Il l'appelle, tu sais quoi? Elle raccroche, il rappelle. Elle raccroche, il rappelle. Il appelle à n'importe quelle heure, 2h du matin, 4h du matin. Elle m'a dit, mais Hada, c'est pas possible, Hada, mais boule, wesh. Il l'a rendu dingue.
Oui, alors, qui t'a dit, oui, je la harcèle.
Ouais. Alors, attends, il l'appelle. Elle lui dit, mais laissez-moi tranquille. Non, il l'appelle. Voilà, il sait pas ce que ça veut dire, laisse-moi tranquille, mais femme. Et du coup, en plus, attends, l'aplomb. Il m'appelle. Alors, je dis, ah, tiens, je t'attendais, toi.
Allez,
alors, je lui dis, bah, tu tombes à pic. Je dis, mais tu te rends compte, t'as vu ce que t'as fait à Fatima? Tu la harcèles. Non, je vais pas dire ça. Je lui dis, mais t'as vu ce que t'as fait à Fatima? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait? Tu sais ce qu'il me dit? Moi, je croyais, il me dire, non, patatata. Même pas heureux. Non, il dit, oui. Je lui dis, t'as fait quoi? Il dit, je l'ai harcelé au téléphone.
Oui, il l'a avoué.
Tu l'as entendu?
Ben, j'étais avec toi.
Tu sais, quelqu'un qui te dit ça, ça te met les nerfs encore plus. Je l'ai harcelé. Hey, t'es content?
Non, c'est pas bien, c'est pas bien.
Je lui dis, tu crois, t'es bien, t'es content? Il fait, non, je sais que c'est pas bien. Et pourquoi? Ah ben non, je voulais lui parler. Non mais attends, mais c'est pas possible.
Ah, je te jure. On a bien rigolé quand même. Hein.
Non mais vraiment. Ah mais c'est drôle, hein. C'est drôle, mais c'est pas drôle pour elle.
Non, c'est pas drôle pour elle, mais bah, bon, oui. Voilà.
C'est et vrai Samir, c'est encore un autre registre. Fadila, elle est où? Ouais. Fadila, ce matin, elle cherchait un homme pour une femme, pardon.
Oui, j'ai entendu ça.
Fadila, tu m'as juré. Hein. Il faut que je cherche son numéro. Je l'ai son numéro. Mais Fadila,
cherche une femme pour son mari.
Voilà, appelle Fadila. Tu as juré à l'éviter. Je veux plus te croire. Appelle, raconte ton histoire. T'as dit que tu cherchais une femme pour ton mari. Viens nous dire le pourquoi du comment, s'il te plaît. Hambebek, hambouk, comme ils disent les Oranais. Attends, on va reprendre.
Pour revenir au sujet, franchement, arrête un petit peu de divaguer, de vouloir.
Divaguer, chauffer. Comment tu veux que je le laisse parler, Hada? Vas-y, continue. Comment?
Ben, je suis là. Hein.
Oui, oui. Non, je parle avec mon réalisateur. Oui, alors donc, tu voulais parler de quoi? Ramène-nous de la positivité. Dis-nous quelque chose de drôle.
Non, mais c'est pas ça.
Est-ce qu'il t'arrive de raconter des blagues, je sais pas, dans ta vie, de sourire, je sais pas, de chatouille-toi, essaye, tu verras, ça peut déclencher des rires.
Moi, tu changes de conversation.
Mais vas-y, dis-nous quelque chose de marrant, de sympathique.
Ben, et pour ça, voilà, promésienne, c'est pour ça, bon, je sais pas.
Il y a Fatima avec toi.
Allez, ben, je te parle dessus.
Il y a Fatima avec toi, qu'est-ce que tu peux lui dire de bien? Fatima, tu es là, Yek?
Ah, je suis toujours avec toi, Vanessa.
Voilà, elle est là, Fatima. On t'écoute.
En fait, ta mère, il a envie de parler de négativité. Il t'a dit, il faut.
Non, c'est pas ça.
Ta mère, je vous ai entendu, vous avez dit, il faut parler de. Il faut aussi se souvenir du négatif. Alors,
du positif et du négatif. Il faut voir les choses. Parce que d'ailleurs, on voit que l'arbre zarque. Mais et pour s'améliorer, il faut aussi apprendre de nos erreurs.
Mais quand le sujet vient. Quand le sujet, s'impose, mais là, il y a le sujet, il n'y a pas. Là, le sujet, aujourd'hui, on parle des choses tristes. Hier, on a parlé de la violence, des femmes, des féminicides, de morts, on parle de guerre, on parle de tout ça. On a parlé, tiens, des événements du 8 mai 45, on parle de choses tristes. Mais là, ce soir, en l'occurrence, il y a la nostalgie, puis on parle de belles choses, on parle de musique, on parle d'Oran, on parle de... Voilà, on peut aussi, non?
Mais bien sûr qu'on peut.
Ah bah voilà, on peut, ça fait du bien, je t'assure que ça fait du bien.
Enfin, mais ça fait du bien, mais aussi, il faut savoir comment parler, il faut pas dire les choses, voilà, il faut pas positiver pour positiver, aussi, il faut voir les choses comme elles sont, il faut pas arrêter de mentir aux gens, Yannick.
Samir, est-ce qu'on t'énerve avec notre positive attitude? Est-ce qu'on t'énerve?
Non,
j'ai l'impression que tu t'énerves parce qu'on est positive.
Non mais
qu'est-ce que tu veux dire? On n'a rien compris dans ce que tu veux dire. C'est ça le problème. On a une petite pause. Ne partez pas. On a Inès. On va prendre Inès aussi avec nous. Tiens, on va le prendre en étau. 01 53 48 3000. Une petite pause. Elle est très courte. Et on revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h. Confidence. L'émission sans tabou. Avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000. Voilà. Samir, il a juste oublié qu'il y a des gens, peut-être aussi de temps en temps, qui ont besoin de bouffées d'oxygène. Ils sont dans les hôpitaux, ils nous écoutent. Il y en a qui sont incarcérés. T'as des gens, ils sont dans des endroits un peu tristes, quoi. Et beaucoup de malades, hein, qui nous écoutent. Beaucoup, 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 hein. Ils n'ont que leur radio à l'oreille pour se faire du bien avant de dormir. Donc on essaye aussi d'apporter un peu de bonne humeur. Ça peut leur faire du bien aussi, Samir. Hein, on peut pas que pleurer. Oui, 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 il faut parler que de choses. Attends, attends, attends. Non, attends. Samir, bzaf. Alors, on a Inès. Je te reprends juste après Samir et comment et Fatima. Inès et Romuald. Alors, Romuald, bonsoir. Et Inès, juste après. Bonsoir, Romuald, oui. De Valenciennes, hein, c'est ça.
Oui, bonsoir. Voilà. C'est la première fois que je passe sur la radio.
Bon, ben, écoute, bienvenue. Hein.
Est-ce que c'est possible de faire une annonce?
Alors, je vais te dire, demain, tu appelles à 11h. Ah non, pas demain, demain, c'est samedi. Lundi, de 11h à midi, il y a des annonces. Hein, le même numéro de téléphone, voilà, la même fréquence, tu es à Valenciennes, donc je sais plus, Valenciennes, faut qu'on me mette le tableau là, hein, parce qu'on a fait quelques travaux et on a plus de voilà. Moi, j'aimerais bien donner les fréquences à chaque fois que vous appelez. Voilà, merci, 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 mon collègue. Voilà. C'est alors, 50. Donc, attends, alors Valenciennes, c'est quoi? C'est 97.4. Hein, voilà, la fréquence 50. 97.4. Vous pouvez nous écouter par le DAB et par aussi par l'application Beurre FM. En tout cas, Valenciennes, c'est 97.4 FM. Alors, tu appelles lundi, 11h. OK?
D'accord.
Je t'embrasse, Romuald. Bonne soirée pour les annonces. C'est lundi, du lundi au vendredi, 11h midi. Chers amis. Inès, bonsoir Inès.
Bonsoir, bonsoir Vanessa, bonsoir à tous.
Bienvenue Inès.
Ma chère Vanessa, je suis contente de t'entendre.
Merci.
Je t'avais appelé il y a peut-être 2-3 ans, si tu te souviens bien. Je me faisais harceler par un groupe de jeunes dans mon immeuble, tu te rappelles?
Ah, et comment ça se passait?
Bah, j'ai fini par partir, j'ai vraiment...
T'es partie, tu
voilà,
te rends compte,
ouais, c'est j'ai fini par partir. Et pour te dire, bah, je vais te raconter. Juste avant, si tu permets, Vanessa, je voulais juste passer un message à tous les gens qui appellent, tous les auditeurs,
oui,
par rapport à l'intervenant précédent. Alors, Vanessa, tu te bats, tu te démènes pour donner de la joie, de la bonne humeur, du positif.
Mmh.
Et franchement, les gens qui appellent pour semer la discorde, pour voilà, pour râler, pour, on vit déjà dans une société qui est toxique, où il y a du négatif partout, partout,
oui,
partout,
oui,
où on se bat au quotidien, on a des difficultés tous. Alors franchement, de grâce, les donneurs de leçons, les gens qui viennent là pour pourrir l'ambiance, mais s'il vous plaît, prenez un livre, lisez et oubliez les auditeurs de Beurre FM qui sont juste là pour avoir une bouffée d'air et pensez à autre chose en fin de journée.
Eh ben, écoute, merci.
Voilà, Vanessa.
Merci, merci d'avoir rétabli un petit peu, voilà, de mettre de l'ordre. Parce
Je déteste l'injustice et ça rejoint ce que je dis là, ça rejoint ce que je vis au quotidien,
oui,
moi.
Alors, qu'est-ce qui se passe, toi, dans ton quotidien, Inès? On
t'écoute. Alors, je t'avais appelé en 2018 parce que, justement, je me faisais harceler parce que j'habitais seule et j'étais une fille qui travaillait. Je devais me justifier dans un quartier sur le fait de rentrer tard, de... comme j'étais bien habillée, tu vois, il y avait ce petit côté, c'est quoi cette fille, tu vois, la jalousie, le machisme qui existe chez nous, de comment elle sort d'où, celle-là. On me surnommait la petite sœur de Rachida Dati, alors que j'étais juste une fille qui avait fait des études, qui essayait de réussir dans la vie et voilà, qui vivait dans son coin, qui n'embêtait personne. Et je vivais tellement un environnement, une vie vraiment catastrophique où je me cachais.
Mmh.
Et c'est la vie de bien des femmes, bien, bien des femmes dans les quartiers en région parisienne. Alhamdoulilah, et je remercie mon Dieu. J'ai fait des études, j'ai grimpé les échelons et je suis arrivée, j'habitais dans un HLM.
Mmh.
Et Dieu merci, j'ai pu, tu vois, dépasser le plafond des revenus HLM et pouvoir me barrer et aller dans le privé.
Mmh.
Et franchement, je tire mon chapeau à toutes
magnifique,
les femmes.
Bravo pour ton parcours en tout cas.
Voilà, merci Vanessa. Et vraiment, je tire mon chapeau à toutes les
terrible,
femmes qui luttent tous les jours dans les quartiers, au quotidien, pour juste exister.
Ouais.
Pour juste exister.
Quand tu parlais de plafond, j'ai pensé au plafond de verre justement.
Plafond de verre, plafond de ressources, parce que beaucoup ne savent pas,
oui,
mais
toutes ces barrières que tu as pu dépasser, c'est des barrières invisibles, mais qui sont là néanmoins. voilà, pour empêcher justement des femmes comme toi à accéder à des postes supérieurs.
Ouais, Vanessa.
Et tu le dois à toi-même et à ta force, et on sent l'émotion. Oui.
Et je suis partie en disant au revoir en larmes à mes voisins, mes voisines, leur dire, mais moi j'ai la chance. J'ai la chance de pouvoir partir. Mmh. Et je pense aux millions de personnes qui sont parquées dans les cités, dans les banlieues de France.
Terrible.
qui elles n'ont pas le choix. Mmh. Qui parfois, tu vois, ont des enfants qui malheureusement ne peuvent pas leur offrir autre chose. Moi, j'ai culpabilisé en partant. Tu vois, pour te dire, Vanessa, en 2 ans, j'ai déménagé en 2019. On est en 2023.
Oui.
J'ai déménagé 2 fois. J'ai déménagé 2 fois. Mmh. Il y a des gens qui attendent des logements pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans.
Mmh.
Et au quotidien, je me dis, mais je me bats, et je m'en veux, tu vois, de ne pas pouvoir emmener avec moi tous ces gens qui galèrent. Tu vois, tous ces gens qui sont stigmatisés. Tous ces gens qui se lèvent tôt le matin pour aller charbonner et qui sont même pas reconnus, qu'on critique parce qu'ils habitent dans le 93. J'ai habité dans le 93 et j'ai défendu le 93 et j'ai dit la Seine-Saint-Denis, non, c'est pas un département de cas sociaux. Moi, je suis diplômée, j'ai fait des études, je gagne bien ma vie, je ne suis pas une cas sociale.
Exactement.
Et je me suis battue, mais j'ai fini moi aussi, Vanessa, par partir. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'au final, tu vois, les gens qui pourraient relever le niveau de ce département, je cite ce département-là, ils finissent par partir parce qu'on leur mène la vie dure. Mmh.
Par dépit, découragement.
Mmh. Par découragement, parce que c'était pas une vie, tu te rends compte. Moi, pour sortir de chez moi, en été, par exemple, je regardais par la fenêtre de la cuisine, j'avais un visu sur la place centrale du quartier.
Mmh.
J'étais habillée pour sortir et je ne sortais pas.
C'est
parce
fou,
que j'avais pas l'énergie de passer devant une meute, parce que c'est ça, des meutes de groupes de jeunes qui sont partout. Et je leur en veux pas aujourd'hui, je leur en veux pas.
Ouais.
Parce qu'eux aussi, ils souffrent de tout ça. Eux aussi, ils souffrent de tout ça.
Ouais, c'est juste ce que tu dis, c'est magnifique. Et en même temps, c'est tellement touchant. Parce que il y a tellement de vérité dans ce que tu dis.
Je suis en colère.
Il y a tellement de vérité, et puis il n'y a pas de haine en même temps. Il y a la colère, mais il n'y a pas la haine, c'est ça?
Non, il n'y a pas de haine.
Oui.
Je vais arriver au sujet suivant, si tu veux bien, ma chérie.
Mais oui, je t'écoute.
En 3 ans, j'ai déménagé 2 fois. Donc, je suis partie de ce quartier vraiment en me disant, cours, il ne te retourne pas parce que ce n'est pas une vie. Et pourtant, on me disait au quotidien, tu sais, meuf, nous ici, on est gentils. Nous, on est sympas. Ici, dans ce quartier-là, on est sympas. Et c'est vrai, ils étaient sympas. Mais pour moi, c'était pas une vie. C'était pas une vie de rentrer chez moi à 22h, 23h et de devoir baisser la tête parce que je suis obligée de passer devant des mecs qui étaient devant les 2 entrées de mon immeuble. C'était pas normal que je doive baisser la tête alors que je rentre du travail. Je suis pas une fille qui traîne. Ils l'ont compris. Des mois, ils ont fini par comprendre. mais c'est pas normal que parce qu'on est une femme,
voilà.
parce qu'on est maghrébine aussi.
Et parce que tu disais, parce que voilà, tu es une femme, tu es maghrébine comme eux. Et puis en même temps, parce que tu t'habillais moderne, quoi. Enfin. D'une manière moderne, avec des vêtements qui te plaisent.
Vanessa,
en
tailleur pantalon.
Oui, tailleur pantalon. Et qu'est-ce qui leur plaisait pas dans ta manière de t'habiller? Qu'est-ce qui leur plaisait pas?
Non, c'était pas ma manière de m'habiller. Il y avait une espèce de confrontation homme-femme.
Oui.
C'était une espèce de confrontation où j'avais l'impression que je leur renvoyais leur.
Ah oui.
Leurs conditions. Mm-hmm. Et donc petit à petit, donc.
Quand je dis conditions, c'est pas péjoratif, c'est justement
pas du tout.
Parce que malheureusement, la plupart qui trouvent pas de travail en rupture scolaire. Et puis peut-être des problèmes en famille, peut-être des familles qui éclataient. Enfin, il y a beaucoup d'histoires.
Et encore une fois, je ne leur en veux pas parce que j'ai essayé. Il y a eu un dialogue. J'ai parlé avec eux en leur disant, mais penser à votre avenir, en vraiment, tu vois, leur donner
c'est bien, c'est bien,
de arrêter de croire qu'on vous déteste parce que vous êtes des jeunes de banlieue. Moi, je travaille dans une entreprise de, à l'époque, qui était de 800 personnes, aujourd'hui, qui est de 1100 personnes.
Ah oui.
Et je leur disais, mais arrêtez de croire qu'on vous déteste, on vous déteste pas. Mais il faut vous donner les moyens, il faut vous battre.
Et oui.
Et en fait, il y a eu, à ce moment-là, quand il y a eu cet échange, ils m'ont regardé avec un autre œil. Ils disaient, bon, finalement, elle n'est pas si hautaine.
Ouais.
Mais la première fois, quand j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, mais tu peux arrêter de parler comme Molière.
Ah ouais, tu vois.
Je leur ai juste dit, mais je parle normalement, en fait.
Parce que, si tu veux, on parle de stigmatiser, de cette stigmatisation dont on parle beaucoup. Hein, c'est un terme qui est très, très utilisé.
Ouais.
Eh bien, eux-mêmes le sont. Alors, si tu veux, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que à leur tour, si tu veux, ils se comportent de la même manière. Alors donc, ils vont stigmatiser ceux qui ne leur ressemblent pas dans leur tête. Hein. Ils pensent qu'ils ne leur ressemblent pas, qu'ils sont différents d'eux. Tu comprends? Tout le monde, c'est l'effet miroir. Tout le monde stigmatise tout le monde finalement. Eux, ils se sentent rejetés par certains. Ils se sentent en marge de la société. Ils se sentent mal aimés. Donc tout ce qui leur semble être différent et peut-être susceptible d'être, si tu veux, la source de cette détestation, toi en l'occurrence qui semble être une femme moderne, etc. Ils te disent arrête de parler comme Molière, dire que ceux qui parlent comme Molière ne les aiment pas pour eux dans leur tête. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est ça.
Forcément, alors c'est leurs ennemis. Alors que non, c'est pas ça. Problème
alors
est
que
plus
non, j'ai essayé de leur expliquer que moi je parlais normalement et que la barrière, en fait, c'est pas nous qui la mettons, c'est eux.
Ouais.
Au final, parce que c'est eux qui ont leur code, qui ont attention, hein, je suis pas en train de stigmatiser la jeunesse de France.
Tu le fais pas du tout. Tu en parles très très bien parce que tu expliques la situation avec une justesse, avec les mots que tu pèses. C'est magnifique.
Je suis jeune comme eux et en parlant avec eux, je leur ai dit mais on part avec des difficultés parce qu'on n'est pas français. On nous dit qu'on n'est pas français, même si on l'est sur les papiers.
On nous dit
que nos parents sont des ouvriers. Tu vois, déjà, on part avec des difficultés.
C'est vrai.
Mais bordel, battez-vous.
Eh oui.
Moi, à 10 ans, à 9-10 ans, ma mère m'emmenait pour que je lui traduise. Tu vois, l'assistance sociale.
Mais faut pas pleurer, c'est le lot de toutes les mamans.
Mais voilà,
on a tous rempli les papiers, des formulaires pour nos mamans, c'est pas grave, il faut que ce soit des bons souvenirs. Et être fier de ces mamans, justement, qui étaient des femmes courageuses.
Être fier de ça.
Mais oui, c'est pas leur langue, mais bon.
Bien sûr, mais moi je suis fière d'avoir été comme ça.
C'est bien sûr, ça c'est une richesse et ta force.
Mais je voulais pas rester dans ma condition. Je me disais,
c'est bien.
Non, voilà. Moi, ma mère, elle a souffert.
Voilà.
Je peux pas. Moi, à 13 ans, tu sais, je lisais les bouquins sur les accords d'Oslo.
Ah oui.
Enfin, tu vois, c'était, m'intéressais, j'étais, et je me disais, je suis une fille, j'ai pas de père, mais c'est pas grave, je vais me battre. Et je me suis battue, tu vois.
Il est décédé, ton papa?
Ouais, j'ai perdu mon papa à 7 ans.
Mais tu as ta maman. Tu sais que ta maman, c'est... Comment dire? Eh bien, c'est ton père, c'est ta mère. Et ta mère, elle a refait sa vie?
Non.
Bah, tu vois, regarde.
Ma mère...
Regarde, voilà. Voilà une maman, ce que c'est. Voilà.
Ma mère, Vanessa,
ouais.
Si tu veux, on en parlera vraiment une autre fois. Ma mère, malheureusement, ne me soutient pas dans ce
cas. Ah oui?
Non, elle ne me soutient pas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rupture à un moment donné?
Ma mère, c'est compliqué. Elle a un seul fils et peut-être que ma colère, elle vient de là aussi.
Oui, il y a quelque chose. De toute façon, ça, on le
ma
sent
mère,
bien.
En fait, ma mère n'a qu'un fils.
Enfin, elle a toi aussi.
Elle a des filles et elle a qu'un
filles.
Seul fils.
Non,
et
oui,
elle rejette les filles et privilégie les garçons.
C'est incroyable.
C'est très très compliqué. On en parlera si tu veux bien.
Non, mais tu peux aussi en parler. Tu peux en parler, ma chérie. Tu peux en parler parce qu'on peut parler de tout en même temps. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on comprend mieux. Mais ce que tu dis est tellement vrai parce que ces mères qui font la distinction, la différence entre les garçons et les filles, Elles savent pas, elles savent pas ce qu'elles font. Elles savent pas parce que ça s'appelle l'ignorance, par contre. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est l'ignorance.
Oui, c'est l'ignorance.
Parce que le bien, c'est malheureusement, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. On le voit, on le constate. Ben, c'est les filles, parce que plus tard, qui?
Bien sûr.
Quand les parents sont malades, hein, moi je connais un tas de familles où quand les parents, il y en a un qui décède, ou quand la maman décède malheureusement, il reste le papa. Alors là, le papa, miskin, âgé, il est perdu. Eh ben, c'est les filles qui viennent passer. Ah oui, je connais des familles comme ça. Hein. Chaque nuit, il y a une des filles qui vient passer la nuit avec son papa, qui laisse son foyer, ses enfants, pour venir passer la nuit avec son papa, veiller sur son papa, et des fois même faire des choses, par exemple changer les couches, des choses par la vie, hein, parce qu'on vieillit. Hein. Eh bien, voilà, nettoyer, être proche de son père, supporter des fois son humeur, qui est pas facile quand il est malade et l'âge, etc. Des fois Alzheimer, des fois. Eh bien, chaque nuit, il y a une des filles qui vient. Et les garçons, il y en a, hein, dans ces familles. Ben, les garçons, ils sont absents. Pour la plupart
c'est
du temps.
C'est tout à fait
ouais, ta mère, elle a rien compris à l'histoire, hein.
Elle a rien compris à l'histoire. J'ai essayé de lui expliquer quand j'avais encore de l'énergie. Mais,
Vous en êtes où, là, aujourd'hui? C'est-à-dire, le garçon, maintenant, il vit sa vie, il est parti,
Non, pas du tout. Il vit avec elle.
Ah oui? Il a quel âge?
Il ne nous parle pas.
Il a quel âge?
Il a 36 ans.
Solal.
Regarde-moi. Il ne nous parle pas.
Il vous parle pas?
Non, il ne nous
il
parle pas.
Il a 36 ans?
Ouais.
36 ans, il cherche pas à se marier, il parle avec personne, il vous parle pas. Parce que pourquoi? Ben oui, parce que ta mère, elle a tout raté dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? À force de le mettre sur un piédestal, ben elle en a fait un pharaon. Pharaon, il parle pas avec le petit peuple.
Non, ben, il voilà. parle pas.
Ben c'est ça.
Moi, mon frère, ça fait 18 ans que je n'ai pas entendu le son de sa voix.
C'est incroyable. C'est incroyable. 36 ans quand même. Il cherche pas à se marier, ou rien?
Bah écoute, j'ai eu écho qu'il s'était marié.
Ah bon? Et elle est où cette femme?
Je ne sais pas.
Ah bon?
Apparemment, ils ont fait un mariage Halal Express, mais bon, chacun vit chez soi apparemment.
Ah bon?
Je te dis apparemment parce que on est. Parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact, en fait.
Ah oui, il n'y a rien qui se dit.
Comme
quoi.
On est cinq filles et ma mère a choisi son fils. Et comme il vit avec elle, tout dépend de lui.
Oh là 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 là, c'est incroyable.
C'est une catastrophe.
Ah bah oui, il a fait halal, on ne sait pas pourquoi, mais sa femme, elle est chez elle. C'est une forme de castration. Non, hein, c'est terrible, hein, ces mères qui. Elle a perdu son mari, donc son fils est devenu.
C'est
devenu l'homme de la maison, l'homme de sa vie. C'est terrible, terrible.
Chikour,
hein.
Comme on dit chez nous.
Ah, c'est incroyable.
Et,
hein. Ah ouais,
et moi, justement, moi, avec ma force de caractère, et j'ai essayé de lui expliquer que, attention, maman, l'islam, c'est pas ça.
Non.
Maman, l'islam, c'est pas ça. Tu confonds.
Oui, c'est exactement ce qu'on disait hier. Hein. On parlait de tradition et de religion.
Tradition. Voilà. Mais les traditions, elles nous détruisent.
Ah, mais
les
complètement.
traditions détruisent les familles. Et au début, on se disait, tu sais, quand on est jeune, on se dit, peut-être que le problème, c'est nous.
Mais non.
Tu vois, nous, les filles, on est comme ça. On va se dire, peut-être le problème, c'est nous. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai mal fait, moi? J'ai fait mes études, je suis autonome, je dois m'en vouloir?
Mais non, mais attends. Attention, ne rentre pas dans cet engrenage. Hein. Ne te pose pas ce genre de questions, ma chérie. Parce que si tu commences, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, c'est pas toi qui as tort dans l'histoire. Non, ma chérie. Tu n'es pas responsable de l'éducation de ta mère. Parce que ta mère, elle a tout faux dans l'histoire. Et voilà, il y a un déséquilibre en tous les cas. Il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, je veux dire, il n'y a aucune complicité avec ta mère. Et ça, c'est pas normal. Ce garçon, il a pris toute la place. Mais un jour, elle le regrettera parce que ça va se retourner contre elle, malheureusement. Parce que tellement elle en a fait, je te disais, pharaon, c'est un dictateur. Donc il va être dictateur avec elle, il va être dur avec elle aussi, hein, il va lui imposer des choses.
Au début, elle nous disait, elle nous faisait comprendre que le problème, c'était nous, qu'on était trop autonomes, qu'on était trop indépendantes, qu'on était trop... Mais on était des brouillards depuis toute jeune, on n'avait pas le choix.
Mais c'est tant mieux.
On n'avait pas le choix.
Mais on peut être fier de fille. Mais moi, je suis fière de toi. Bravo.
Et là, je lui disais, mais en fait, il faudrait que tu sois fière. Elle lui disait, en fait, c'était toujours par rapport à son fils. C'était toujours par rapport à lui.
Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon?
Il est avocat.
Ouais.
Ah ben... Le comble, c'est qu'il est avocat.
D'accord.
Et que Ben, il passe son temps à défendre des gens et en fait, il ne parle pas.
C'est pour ça que je reste quoi, tu vois, parce que c'est tu me dis, tu me dis, avocat. Bah écoute, ne me donne pas ses cartes de visite, hein, parce qu'on n'a pas envie. Hein.
Non,
mais il y a un problème là, attends, vraiment. Hein,
Et au début, Vanessa, donc on disait, c'est nous, jusqu'à ce qu'il y ait des petits-enfants, tu vois, jusqu'à ce que mes sœurs, deux de mes sœurs aient des enfants. Et aujourd'hui, en fait, ça se répercute sur les petits-enfants.
Et oui, parce qu'il y a une transmission.
Mais c'est incompréhensible. Et là, du coup, donc tu te retrouves avec une petite de 10 ans. Quand elle va chez sa mamie, en fait, elle peut pas regarder la télé, elle peut pas jouer avec sa petite sœur
régulièrement
parce qu'elle dérange son fils.
Ah oui, non, mais c'est vraiment le dictateur, quoi.
Ah non,
c'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Mais ta mère, elle a besoin. Non, mais je suis désolée. Ta mère, elle a besoin. C'est pas méchant, hein. Mais de besoin de consulter une psychologue pour qu'elle lui explique,
tu vois.
Pour qu'elle lui explique les choses, même pour elle, hein. Ça pourrait lui faire du bien. Peut-être elle est malheureuse au fond d'elle.
Non, ma mère, elle fait partie de cette génération et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais on est une communauté qui, il y a une omerta chez nous.
Favorise les garçons.
Il y a une omerta chez nous qui ne dit pas les choses. Il y a une génération,
certaines
mamans chez nous, qui, sous prétexte qu'elles sont les mamans, et franchement, j'en appelle à toutes les mamans qui nous écoutent ce soir. Il y a des mamans qui pensent que sous prétexte qu'elles sont les mamans, elles ont tous les droits. Attention, ne mélangez pas tout, parce que notre religion, c'est pas ça. Hein. Quand on dit le paradis est sous les pieds de la maman, c'est une image.
Oui, c'est une métaphore, c'est un symbole, ça.
C'est un symbole. Mmh. Les enfants, les parents, bien sûr, ont des droits, évidemment, on leur doit le respect, etc. Mais attention, les enfants aussi ont des droits.
C'est réciproque.
Les enfants aussi ont des droits.
Le respect, c'est de part et d'autre. Hein. Le respect, c'est pas dans un sens, hein, parce que sinon, ça devient n'importe quoi.
Bien sûr.
Non. Là, il y a une injustice. Et ton frère, il a pris toute la place Il remplit sa mission parce que ta mère, il sait ce qu'elle attendait de lui inconsciemment. Ouais. Hein, c'est ça qui est terrible, hein, parce que c'est pas conscient. Si t'es conscient, il y aurait de la réflexion. Mais il savait ce qu'elle attendait de lui, donc il remplit sa fonction. Et ce qui fait que lui, c'est l'autorité.
Mais tu verrais,
c'est
Vanessa.
C'est terrible. Hein.
Mais tu verrais ce qu'il lui fait. J'ai essayé de lui dire, mais regarde, maintenant, avant, il s'en prenait à ses sœurs, maintenant, il s'en prend à toi.
Ah, ben, si, je t'ai dit il y a deux minutes, là, je t'ai dit, il va s'en prendre à elle.
Ouais, c'est ça.
Ah, ouais.
Donc, elle lui fait la popote, elle le serre, elle lui fait son linge, et puis, des fois, va savoir pourquoi, il lui fait la gueule pendant 3 jours. Voilà.
Ah, ouais, non, mais elle est heureuse comme ça, mais c'est pas possible. Elle est pas heureuse, ta mère. Il y a un problème.
Mais non, elle est pas.
Je pense que ta mère, à mon avis, elle a reçu une éducation, les garçons, on les met plus haut. Et je pense aussi que ta mère, il y a un problème profond. Je sais pas si elle a été orpheline, mais il y a un manque, il y a quelque chose. Oui, mais dans sa vie, il y a quelque chose, il y a un vide. Et il y a eu un bug. Il y a un bug, forcément.
Oui, il y a eu un bug. Et ce que je te raconte là, en fait, Vanessa, c'est une transmission de génération, puisque ma grand-mère était pareille, en fait.
Eh ben voilà, c'est ça. Ben ouais.
Et ce que je te raconte là, ma mère l'a vécu en fait avec.
Elle reproduit.
Elle reproduit, mais.
Par exemple les enfants battus. Parmi eux, pas tous heureusement, parce que sinon, mais parmi eux, beaucoup reproduisent. Ils deviennent violents quand ils ont été battus dans leur enfance, ils ont vu leur mère se faire battre. Eh bien, ils continuent quand ils se marient, ils battent leur femme, ils battent leurs enfants. Et des fois, ça devient très grave. Et c'est pour ça qu'il y a des infanticides et qu'il y a des choses qui se passent. Parfois, il y a des on entend il a tué, il a violé, il a fait ceci cela. Quand on lit les articles. Ben dans son enfance, il s'est passé quelque chose. Lui-même était un enfant battu, abusé ou je ne sais quoi. Mmh. Tu vois, c'est la reproduction. Mais il y en a qui font leur résilience. Ils ont su la faire. C'est comme ça. C'est miraculeux. Et d'autres pas. Et ta mère reproduit ce qu'elle a vécu elle-même, ce que ta grand-mère, etc., etc. Et ça va de génération en génération. Mais ton frère, moi, ce que j'ai peur, c'est que ton frère va reproduire, quoi. Tu vois, c'est
non. Non, je pense pas, parce que lui il vit à la française, donc.
Mais ça veut rien dire, parce que chez les Français, c'est la même chose, ma chérie, ils reproduisent, hein. Tu crois qu'il y a des Français, quand tu lis les faits divers, il y a beaucoup de Français, t'as de tout, hein. T'en as qui tuent leurs femmes et tout, hein, ma chérie, hein. C'est la reproduction des enfants battus, t'en as beaucoup. Il y a pas que chez les Maghrébins, tout le monde n'est pas battu. T'as chez les Français des enfants battus, t'as des enfants partout, hein, violés, tout ça et tout. Ça, il y a pas d'origine qui soit à l'abri de ces fléaux. Donc, et d'ailleurs, les psys, ils existent aux quatre coins de la planète. Et oui, la reproduction, elle a pas d'origine. C'est ça.
Oui.
Donc, si vit à la française, c'est pas un exemple. Hein. C'est à la française, non, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire du tout. Parce qu'il y a des Français, j'ai pas envie de vivre comme eux. T'as des Américains, j'ai pas envie de vivre comme eux aussi non plus. Tu comprends? T'en as, ils sont très bien, mais t'en as, t'as pas envie. Voilà. C'est... J'ai envie de vivre comme moi, c'est tout. Tu comprends?
Oui, bien sûr.
Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que ton frère, quand je te dis il reproduira dans le sens violence. Et s'imposer. Tu comprends? Parce qu'il est pas, marié, là. On sait pas.
Non.
Mais demain, est-ce qu'il va supporter, de vivre avec une femme et que cette femme soit, et le caractère que tu as, caractère normal, hein, une personnalité, quoi. Il va pas supporter. Il va pas supporter parce qu'il a il a sa mère qui a toujours été soumise à son diktat, tu vois, parce que lui, il a soumis, c'est son objet, sa mère. Donc, je peux pas te dire mieux, une mère. Alors, t'imagines, une mère qui est soumise à toi, ça y est, t'es Dieu sur terre. Alors, imagine demain, il se marie, s'il a pas, parce que, il va chercher sa mère chez sa femme, hein, c'est ça. S'il y a pas la mère, la moindre faille, la moindre petite remontrance, elle lui dit, non, mais attends, mon coco, ça va pas, non, tu vas pas me commander. Ah, c'est fini, hein, c'est le divorce, direct. Hein.
Ben, et ça, tu as entièrement raison. Du début à la fin. Malheureusement, vis-à-vis de lui, mon cœur est mort, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse dans sa vie.
Oui.
Je lui pardonnerai jamais de nous avoir privé de notre maman, tu vois.
Ouais. Mais elle aussi, elle est pour quelque chose, puisque elle, si tu veux, elle a contribué à tout ça. Donc, ta mère, elle a un problème. On peut pas leur en vouloir parce que c'est des gens qui ont un problème. Il y a un désordre psychologique. Tu comprends? On peut avoir des diplômes, hein. Il peut être avocat, il peut être tout ce que tu veux, il peut être même ministre. Et on a vu des ministres avec des désordres psychologiques et faire n'importe quoi. Donc, il y a un désordre psychologique chez ces personnes. Ils baignent tous les deux dans leur atmosphère qui est toxique. Dans cette maison, il y a vraiment c'est toxique, tu comprends, cette ambiance. Et donc, vous n'avez pas votre part là-bas. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que t'imagines.
On les laisse.
Ah oui, dans leur. Voilà. Et toi, est-ce que toi, tu es en couple?
Non.
Toi, quel âge sans indiscrétion, hein?
Je l'étais. 39.
39 ans. Bon, t'es jeune encore. Oula.
Non,
encore
mais je l'étais.
Tu étais en couple et ça n'a pas fonctionné?
Bah non, mais je vais te dire pourquoi.
Pourquoi?
Je vais te dire pourquoi. Ouais, ça revient à ce que je disais au début, en fait, c'est que on vit dans une société malade, vraiment malade. Moi, j'habite en région parisienne, donc j'avais déménagé une fois et tout ce que je voyais au quotidien dans les transports, en fait, je suis arrivée à un stade d'écœurement où je me suis dit là, c'est plus possible. Et j'ai été agressée deux fois dans les transports au mois de décembre là, 2022, dernier mois de décembre.
Oui.
Et là, je me suis confiée à celui que je pensais qui allait me soutenir. Et il m'a juste répondu, c'est peut-être de ta faute.
Ah oui? Ah ouais, non mais c'est à ton compagnon, quoi.
Ouais, mais tu te rends compte de ce que tu dis?
Ah ouais, non mais c'est pas possible.
Voilà. Bon, voilà. Les machos de chez nous.
Et ça faisait un moment que vous étiez ensemble, tu le connaissais?
Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, mais cette réflexion-là...
Moi, je pense qu'il y avait des choses déjà, des signes avant-coureurs, mais tu voulais pas les voir. On veut pas voir, hein, des fois. C'est comme ça. On est comme ça, nous, les humains.
C'est possible, mais
cette réflexion, elle sort pas de nulle part. Donc, il y avait quelque chose déjà, il y a un terrain.
Mais tu sais, ma chère Vanessa, on est conditionné. Il faut qu'on soit en couple, il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça. Mais
pas forcément.
Faut couper tout ça.
C'est pas en couple quand on est bien. C'est pas il faut, non. Il faut avoir des enfants si on en a envie. Si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, on n'en fait pas. Je veux dire il faut briser tout ça parce que tout ça c'est si tu veux c'est de la gnognotte. Hein, moi j'ai envie de dire parce que on fait pas les choses parce qu'il faut. On mange pas parce qu'il faut manger. On mange parce qu'on a quand on a faim. C'est tout. C'est naturel. Tu comprends? Alors donc, on n'est pas des animaux. On fait pas des enfants pour peupler la terre. Point à la ligne. Les animaux sont des enfants. C'est, voilà, par instinct, c'est tout. Nous, c'est pas par instinct. On a un cerveau, on le fait fonctionner. On a envie. Donc, on se met en couple parce qu'on aime, parce qu'on est amoureux, parce que on a besoin de la présence de l'autre, et c'est que voilà, on a envie d'avancer dans la vie, de vieillir ensemble parce qu'on s'entend. Mais si on s'entend pas, que c'est la guerre, pourquoi vieillir avec quelqu'un? C'est-à-dire que peut-être que tu vas même pas vieillir parce que ta santé, elle va en prendre un coup.
C'est ça.
Voilà,
c'est
alors ça. Donc non, on n'est pas obligé. Je veux dire, tout ça, c'est un ordre qui a été mis en place par les êtres humains, et on nous fait croire que c'est un ordre de Dieu, tu comprends? On l'impute à Dieu. Mais Dieu, je veux dire, il a jamais parlé avec les humains, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc on lui fait dire des choses incroyables. Donc non, ça c'est les êtres humains qui sont comme ça. Non, tu te mets en couple parce que t'as envie d'être en couple avec un homme ou avec une femme qui te plaît, avec lequel tu es. Voilà, vous vous entendez, ça se passe bien, etc. Et quand ça se passe pas bien, vaut mieux se séparer. C'est tout. Parce que rester en couple pour la société, soi-disant pour les enfants, que les enfants, on est en train de les détruire, mais c'est juste, non, je reste pour les enfants. T'es en train de détruire les enfants, t'es en train de faire des psychopathes, là. Alors, donc, non. Non? Rester seul, oui, pendant un temps, jusqu'au jour où, comme on dit, tu rencontres quelqu'un qui te mérite, tu le mérites. Alhamdoulilah, tu comprends? Mais t'as 39 ans, t'es jeune. Et ne dis pas oui parce que j'ai eu une expérience. On s'en fait. T'as eu une expérience. Qui n'a pas eu d'expérience dans sa vie? C'est pas grave. Si à chaque fois qu'on avait une expérience mauvaise.
Ah non,
tu prends le volant de ta voiture. Moi, au début, comme tout le monde, quand j'étais crispée au volant quand j'étais plus jeune et que j'ai eu mon permis il y a X années. Eh bien, j'étais crispée. Donc, forcément, quand t'es crispée, tu fais des erreurs. Donc j'ai des accrochages, des machins, heureusement ça n'a jamais été des trucs graves, mais quand même, j'ai bousillé quand même quelques voitures au début. Et puis, je reprenais de l'assurance, etc. Je me remettais, j'ai dû redoubler de vigilance, d'attention, etc. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, pourquoi? Alors, si à la moindre petit truc, une fois, tu dis non, j'abandonne le volant, je conduis plus, khlas, c'est fini. Dimanche dernier, j'ai reçu des membres de ma famille et il y avait un petit enfant. J'adore les enfants, comme tout le monde. Hein. J'aime bien les enfants chez les autres, hein, parce que moi, j'ai pas la patience. Alors donc, et ils sont grands les miens. Alors donc, ce petit enfant, tout mignon, et il a quel âge? Il a un an et trois mois, ou je sais pas, ou quatre mois, ou je sais pas. Et ce petit enfant, il est en train d'apprendre à marcher. Il a un an et quelques. Donc, il se lève. Il tombe, il marche, il se force avec ses pieds arqués comme ça, il se force, ce petit bonhomme. Tu vois comment il se dépêche pour pas tomber, tu sais, c'est comme les oiseaux, ils battent des ailes pour pas tomber. Lui, il avance avec ses petits pieds, tac, 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 vite, 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 pour pas tomber. Et puis des fois, il s'écroule et puis il se relève et tout. Et je disais aux parents, mais vous vous rendez compte, regardez la vie, ça c'est ça la vie, il faut l'observer. C'est à cet âge-là, il faut vraiment observer, et vous comprenez notre condition d'humain sur Terre. Comme pourquoi on réagit de telle manière, etc., à l'adversité, etc. Regardez les petits enfants. Voilà, l'innocence. Il tombe, mais il se décourage pas, parce que ce petit enfant, quand il tombe par terre, il s'est fait mal. Il va pleurer un coup. Il va dire non, plus jamais je me lève. Ouh, ça fait mal de tomber. Je me lève pas, je reste par terre et je rampe. Voilà, c'est tout, toute ma vie. Eh ben non. Il tombe, il se cogne, il pleure. Deux minutes après, il se relève, il recontinue. Ah, l'agnac. Il tombe, il se relève, il tombe. C'est ça. Alors moi je regardais, ils m'ont dit dis donc, j'ai dit oui, j'observe ça parce que je me baigne, mais vraiment, mais je me prègne, mais complètement de l'enseignement que ce petit enfant est en train de m'apporter. Parce qu'à travers lui, je comprends beaucoup de choses chez nous les adultes. Voilà. Eh oui. Tu tombes, tu te relèves. Toi, l'expérience que tu as eue, tu es tombée, mais tu te relèves, ma chérie. Faut pas que tu restes sur une mauvaise expérience.
Ah non, mais moi, je suis Vanessa.
Oui.
Moi, je suis là. C'est vrai que c'est un témoignage
Non, mais j'ai compris. Mais je parle des hommes. Hein. Dans ta vie, tu avances parce que je sens que t'es une mordante.
Oui.
Hein. Je sens qu'il y a que t'es une battante de chez battante. Mais avec les hommes, j'ai l'impression que quand même, tu vois ce que je veux dire?
Bah c'est compliqué parce que je vais te dire pourquoi, parce qu'il y a la sphère privée et la sphère extérieure, mais c'est compliqué, tu sais, quand on me dit quand je parle du harcèlement, qu'on me dit que j'exagère, je rappelle juste que le harcèlement il s'affiche
Oui.
4x3 sur les couloirs du métro actuellement.
Ouais, pourquoi déjà tu te justifies avec eux alors qu'on sait ce que c'est. Mais qui te dit que tu le cherches? Vas-y, que tu exagères. Qui te dit ça?
Mais plein de gens. Plein de gens. Et je leur dis, mais c'est pas possible. On vit pas dans la même société. C'est pas possible.
Alors, il y a un homme qui s'appelle Coluche un jour qui a dit, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Non, mais c'était.
Mais moi, j'aime bien que les gens, ils peuvent être des milliers à me dire que j'ai tort. Mais moi, profondément, si je sais que j'ai raison, alors là, ils peuvent parler pendant toute leur vie. J'en ai rien à faire, ça me glisse dessus. Tu sais que t'as raison. T'en as rien à faire de ce qu'ils pensent, eux. Parce que eux, ils sont imprégnés de clichés.
Moi, si tu veux, Vanessa, je te raconte rapidement.
Oui, vas-y rapidement, parce qu'on arrive presque à la fin, ma chérie.
Ce qui m'est arrivé, j'étais assise dans le RER.
Oui.
Et on était au niveau du sous le tunnel de Châtelet. Oui. Et j'étais partie un peu catastrophe au mois de décembre. Donc quand on arrive dans les couloirs, je me suis dit je vais me recoiffer. Donc j'ai enlevé ma doudoune et puis j'étais en train de me recoiffer.
Ouais.
Il y avait un homme assis juste derrière moi qui était là en train de m'envoyer des réflexions pas trop belles, pas trop classe. Sauf que ce monsieur, en fait, bon moi je ne lui répondais pas. Ouais. Je me suis dit il va laisser tomber. Sauf que ce monsieur, en fait, il se rapprochait. Donc, il se rapprochait sur les sièges de droite jusqu'à venir, en fait, sur les sièges en face de moi.
Vite, on arrive à la fin. Oui, et alors
jusqu'à ce qu'il se mette derrière moi et qu'il pose ses mains sur ma poitrine.
Ah bah dis donc.
Non, mais et devant tout le monde, et je peux te dire qu'il y avait un groupe de trois hommes, mais qui ricanaient.
Oui, oui, des imbéciles. Des imbéciles heureux.
Qui ont rigolé, et malheureusement...
Ça arrive à leur fille, tu verras ce qu'ils feraient.
Mais malheureusement, Vanessa, la réalité, c'est que des imbéciles heureux, il y en a énormément.
Mais oui, on arrive à la fin, ma chérie, je suis désolée, Inès. Reviens lundi, on va en parler, justement, de toutes ces violences. Fais-moi plaisir, reviens lundi. Lundi, Fatima aussi, Souad également et Farid, lundi. Mais oui, des imbéciles heureux, des lâches, moi j'appelle ça des lâches, mon Dieu. Mais heureusement qu'il y a encore des gens bien, parce qu'il y a des gens qui défendent les autres. Malheureusement, on tombe pas toujours sur les meilleurs. Désolée Inès, j'espère que tu as soulagé un peu ton cœur. Mais reviens Inès lundi, s'il te plaît, ma chérie, on arrive à la fin. Et Fatima aussi et les autres. Merci Solal, on se dit à lundi. Bon week-end.
Bon week-end, merci encore Vanessa.
Merci. Bon week-end à vous, chers amis. Belle et douce nuit, faites de beaux rêves. Et puis on vous laisse là tout de suite avec la suite des programmes de Beurre FM. Entre autres, là tout de suite, Rayantologie, c'est signé Beurre FM et nulle part ailleurs. Ok? Allez, bon week-end, à l'écoute des programmes de Beurre FM. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à partir de 11h midi pour vos petites annonces. À lundi, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.